A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Aujourd'hui, on va vous parler de réalité virtuelle avec Half-Life Alyx. On va vous parler de rumeurs persistantes sur deux versions de la console, la prochaine console de Microsoft, Xbox Scarlett. On a aussi des jeux auxquels on joue en ce moment, quelques mots sur les Game Awards et plein d'autres petites news. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui deux co-animateurs merveilleux. D'une part, Escarina. Comment ça va, Maïté? T'es en forme?
Salut Patrick, la grande forme que d'habitude. On est un peu isolé avec les grèves de train en France. Toi, t'as la chance d'être épargné par ça.
Oui, bah... En Finlande, il y a eu une grève de la poste, c'était exceptionnel, mais il y a eu une grève de la poste il y a quelques semaines. Donc, comme quoi, tu vois, c'est...
Il n'y a pas qu'en France.
Ça arrive partout. Et en plus, du coup, tu as une connexion un petit peu moins bonne que d'habitude, donc désolé d'avance si le son saute un peu plus que d'habitude.
Je m'en excuse platement.
Il n'y a pas de souci, on a Benoît de l'autre côté, Exerve, comment ça va? T'es en forme?
Salut, bah ça va super. C'est vrai que moi je bosse à la maison, donc le côté grève, je suis moins touché. Mais et du coup j'ai ma super connexion habituelle. Voilà.
Super, très bien. On entend même tes clics de souris en définition incroyable.
Désolé, je fais attention à tout ça.
Bon, donc on a des sujets importants dont on doit parler. Avant ça, j'aimerais remercier ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, notamment Steph Sinalco, Marvelou, Grim, Sovanara HA, Jinteki Mirai, Nathanad, Thibaut Longy, Florian Fauvarc, Blackmail44 et Aurélien Beck. Cette émission est donc soutenable sur Patreon, sur patreon.com/rdvjeu. Si vous l'appréciez, si vous l'aimez bien, si elle vous fait sourire quand elle arrive dans votre application de podcast, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien est dans les notes de l'émission. Alors, quand même, grosse annonce, il y a une petite dizaine de jours, l'annonce de Half-Life Alyx, un jeu en réalité virtuelle de Valve, c'est même pas Entertainment, c'est juste Valve, Inc. C'est une grosse annonce pour plusieurs raisons, et on ne sait pas vraiment déterminer si c'est une grosse annonce parce que c'est Half-Life ou une grosse annonce parce que c'est de la réalité virtuelle. Pour ceux qui ne... Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ne savent pas ce qu'est Half-Life, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point Half-Life est un titre important et attendu. Il y a des gens qui, mine de rien, le dernier titre, c'était épisode 2, Half-Life 2, épisode 2. C'était en 2007, je crois, avec au moment de la Orange Box, à l'arrivée de Steam. Et c'était il y a 12 ans maintenant, rendez-vous compte, le dernier titre Half-Life, c'était il y a 12 ans. Donc, il y a des gens qui doivent peut-être pas savoir à quel point Half-Life est important. J'ai réfléchi pendant une semaine pour essayer d'expliquer le plus facilement possible, le plus simplement possible, à quel point Half-Life est important. Et je crois que de tous les jeux importants et notables et, comment dire, aimés de la communauté des joueurs... S'il y en a un sur lequel le plus grand nombre de gens se retrouveraient, si on devait dire, genre, s'il y a un jeu auquel vous n'avez pas joué, le plus grand nombre de monde ferait « T'as pas joué à tel jeu ?» Alors évidemment, il y a plein de jeux importants, mais je pense que Half-Life et Half-Life 2, surtout le 2 peut-être, c'est celui pour lequel vraiment le plus de gens diraient « Mais c'est pas possible !» Est-ce que vous seriez d'accord avec moi sur cette estimation ? C'est Half-Life qui est le...
Ouais, Benoît. Au-delà des onomatopées, c'est surtout que Half-Life, en fait, c'est le premier FPS de l'histoire qui a intégré de la narration intégrée directement au jeu. Puisqu'en fait, avant Half-Life, on n'avait pas encore de cinématique in-game et de dialogue dans le jeu. On avait forcément une coupure dans le truc. Et donc, quand c'est sorti, le premier Half-Life, ça a été une révolution au sens vraiment littéral du terme. Et Half-Life 2, bah, c'était juste la consécration. Donc,
Bah, c'était.
Le jour où on va enfin arrêter les bêtises autour du jeu vidéo et parler de classiques, Half-Life et Half-Life 2 sont des classiques du jeu vidéo auxquels il faut jouer quand, ouais. Quand on s'intéresse à la culture globale, quoi.
C'est surtout ça. Vas-y.
Si t'as pas joué à Half-Life, t'as au moins joué à un de ces modes. Enfin, on sait que Counter-Strike vient de là. C'est sûr que c'est un peu la jeunesse du jeu vidéo PC moderne, entre guillemets. Donc.
Ouais. Bah, Counter-Strike et Team Fortress, et bien sûr.
Garry's Mod, tout à fait.
Il y a énormément de choses qui viennent de là. Et même Half-Life 2, moi, je l'ai refait il y a quelques années. Et franchement, ça reste un jeu. C'est un petit peu Uncharted. En première personne avant Uncharted. Bon, c'est pas du tout ça, mais il y a plein de choses qui y sont, la narration, les compagnons, c'est hyper, hyper important au niveau du média, comme tu le dis, Benoît, et au niveau de l'industrie, comme vous le dites tous les deux. Bref, la news n'est pas sur Half-Life.
Et le truc, en fait, qu'il faut savoir pour le contexte, c'est qu'en fait, depuis Half-Life épisode 2, Valve s'amuse, en tout cas s'est amusé pendant quelques années à teaser un fameux épisode 3 ou Half-Life 3. C'est devenu une légende urbaine tellement c'est quelque chose qui est attendu aujourd'hui. Et en fait, depuis toujours, l'idée même qu'un Half-Life 3 puisse exister, ça peut réveiller des gens en pleine nuit.
C'est devenu un mème
au point où, dans une vidéo, là, où pour la pub pour Dota, Gabe Newell, le patron de Valve, on lui demandait de dire 3, tu vois, pour faire l'annonceur dans Dota, et il en est incapable parce que du coup, il n'y a que Portal 1 et Portal 2, il y a Team Fortress 1 et Team Fortress 2, il y a Half-Life 1 et Half-Life 2, mais ils sont incapables de faire un troisième jeu, et même là, Alyx, il ne s'appelle pas Half-Life 3, tu vois.
C'est ce qui. Alors, pour parler spécifiquement de Alyx, effectivement, le spectre du 3 est présent dans toutes les conversations sur Half-Life. Là, c'est un jeu qui va être vraiment un jeu complet, entier, full-length game, comme ils le disent. C'est un jeu qui se passe avant Half-Life 2, donc qui explique la vie de Alyx et son père, comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus, bref, Monsieur Vance, dans City 17, et qui est conçu pour la VR, conçu pour la réalité augmentée, qui permet des choses que, selon les développeurs, c'est un aspect intéressant, ils n'auraient pas pu faire du tout s'ils n'étaient pas en réalité augmentée, simplement parce qu'on a une telle liberté de mouvement, si on a une telle liberté de mouvement que ça serait juste pas possible d'interaction avec l'environnement. Donc, la manière dont je le vois, il y a deux choses. C'est, comme je le disais, la vision qu'on a par rapport à Half-Life et la vision par rapport à la réalité virtuelle. Pour la réalité virtuelle, je dirais, c'est peut-être le premier jeu de réalité virtuelle. C'est pas celui qui va faire arriver la réalité virtuelle, l'installer, on va dire, mais c'est peut-être comme Killer App, la première qui fait envie à un grand nombre de joueurs. Alors, on pourra peut-être en reparler, mais au niveau technique, il faut quand même un PC bien solide pour pouvoir y jouer et un casque de réalité virtuelle. Donc, je ne sais pas si ça va être accessible à un grand, grand nombre de joueurs, même si il est disponible sur tous les casques qui peuvent se connecter à un PC, y compris l'Oculus Quest qui se connecte avec la nouvelle fonctionnalité du logiciel. Mais ils veulent en vendre autant que possible. Donc, il est disponible sur tous les casques, mais il faut quand même un gros PC. Et au niveau de Half-Life, la question, c'est effectivement, comme je disais, est-ce qu'on est content que ça soit un nouveau Half-Life ou est-ce qu'on est déçu que ça ne soit pas Half-Life 3 ? Je ne sais pas si vous avez des avis sur les deux choses. Escarina, est-ce que toi, tu es une enfant de Half-Life ? Est-ce que tu l'attendais comme le Messie, ce prochain titre ? Et du coup, est-ce que tu es déçu
oui,
ou pas ?
Je pense qu'en tant que joueuse PC, je suis principalement plus que console, je suis vraiment une enfant de ça. Et effectivement, Half-Life 3, c'est un titre qu'on attend tous énormément, comme le Messie, entre guillemets, ce qui n'est pas forcément quelque chose de bien d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire qu'on attend aussi beaucoup Portal 3, on attend tous Left 4 Dead 3. Mais c'est vrai qu'autour de Half-Life, il y a cette espèce d'aura. Valve a fait de cette licence une licence assez unique et. On a tellement
été. Mais du coup, tu me dis pas déçu ou pas que ça soit pas le 3 ?
Je pense que, alors si j'ai été un petit peu déçue que le 3 soit pas annoncé, et j'ai été d'autant plus déçue quand j'ai vu que c'était un titre VR, parce que moi j'ai pas la VR à la maison, et j'ai été encore plus déçue quand j'ai vu les trailers, parce que ça a l'air de défoncer quoi, enfin ça a l'air vraiment super bien, on retrouve les ambiances du 1 et du 2, ça a l'air ultra chouette. Après moi je me demande, enfin j'ai le petit diable sur mon épaule qui me dit, est-ce que Steam a pas développé ça en VR un peu par opportunisme, et plus j'en lis autour de ça, plus j'ai du mal à retrouver la sincérité de l'argument de dire on a voulu le faire en VR parce que on s'est rendu compte que juste avec un clavier et une souris on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, contrairement à la VR. C'est des arguments auxquels j'ai un peu de mal à croire, mais c'est vrai, quand on regarde le trailer, les possibilités avec la VR ont l'air tellement intéressantes, et je me dis peut-être qu'enfin on va avoir un vrai jeu de VR comme on l'attend depuis très longtemps. Voilà, je suis très curieuse, mais je pense que je pourrais pas y jouer, donc un peu déçue.
Ouais. C'est le cas de nombreux joueurs qui pourront effectivement pas y jouer, même moi qui ai le casque, j'ai pas le PC qu'il faut, donc je sais pas si je vais devoir...
Benoît, je sais pas s'il y a des gens qui...
Pardon, Benoît, il y a des travaux, oui, chez toi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on entend des...
Je m'entends un couteau dans une cuisine.
Ah, donc d'accord.
Je vais couper mon microphone entre deux prises de parole. Désolé. Okay. mon micro est assez sensible. C'est un peu le... Ça le
c'est comme toi. Même. C'est comme toi, Benoît. T'es très sensible.
Je suis très sensible, effectivement. du coup, je ne sais pas, moi, par rapport à l'annonce, il faut se rappeler que Valve, en fait, c'est quand même les spécialistes du cheval de Troie. Hein. Je veux dire, ils nous ont forcé à installer un truc qui s'appelle Steam en nous vendant Half-Life 2. Et c'était déjà de l'opportunisme à l'époque.
Auquel
moi, c'est une compagnie dans laquelle, tu vois, j'ai vraiment beaucoup d'admiration, et je les déteste parce que c'est le pire et le meilleur de ce qu'on peut imaginer en même temps, tu vois, dans une seule et même compagnie. Hein. Donc, c'est vrai que moi, j'étais quand même très content de voir ça, l'annonce de Half-Life Alyx, parce que c'est enfin, comme tu l'as dit, et Patrick aussi, hein, peut-être un vrai jeu qui veut exploiter la VR. Moi, c'est ce que je reproche à la VR depuis toujours, c'est qu'on nous vend des expériences, on nous vend du matériel extrêmement cher pour jouer 10 minutes à Astrobot, enfin, tu vois, ou à Beat Saber. C'est pas ça qui va justifier l'achat. Donc là, ils ont la licence Half-Life, il va y avoir l'intégralité de la Terre qui va tester le jeu et qui va vouloir donner son avis là-dessus. Donc ça va forcément titiller la carte bleue et le PEL de tous les gens. Et si en plus c'est bien, et là-dessus, je pense qu'on peut leur faire confiance vu le nombre de... Ça fait énormément de temps qu'ils travaillent sur ce jeu. Je pense qu'on peut leur faire confiance, ça va marcher, tu vois.
Il faut dire que...
Ouais, c'est ça, ça va être un peu le ticket d'entrée pour pas mal de choses derrière, en fait.
C'est la grande question, oui. Il faut dire qu'ils travaillaient sur un jeu, ils voulaient faire un jeu complet en réalité virtuelle depuis un moment, et selon ce qu'ils nous disent, ensuite il faut savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais ils n'étaient pas sûrs de vouloir faire un Half-Life, et ils se sont rendus compte, parce que même pour eux, on s'en doute et on le comprend, le spectre de Half-Life est énorme, et le fait de se lancer dans Half-Life 3 aujourd'hui, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas satisfaire les attentes, c'est juste devenu impossible.
Je suis pas d'accord.
Non, t'es pas d'accord.
Là-dessus, ouais, non, parce que justement, ils ont plus de moyens et plus d'expérience que tous les autres studios quasiment, et surtout ils ont un budget infini, donc ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour lisser leur jeu. Et même si ça fait des années, tu vois, qu'ils ont pas sorti de jeu depuis Portal 2 ou Left 4
Dead. Ouais, on oublie Artifact, celui-là.
On l'a oublié déjà, mais tu vois, c'est parce que c'était un petit projet au sein d'eux. En fait, ils sont tout le temps en train de travailler sur des choses, mais ça aboutit pas forcément à quelque chose parce qu'ils en ont pas besoin. Le temps que je termine cette phrase, ils ont gagné de quoi se financer deux ou trois jeux. Donc forcément, ils ont cette espèce de liberté. Et moi, je pense qu'ils sont capables de faire Half-Life 3. C'est juste qu'ils en ont pas le besoin, tu vois. Ils en ont pas le besoin. Ils ont Steam.
Mais alors du coup, est-ce que tu es déçu ou on n'a pas... Moi j'ai une question très simple, déçu ou pas que ça soit pas Half-Life 3?
Ah non, moi je m'en fous complètement.
D'accord, très bien.
Ouais, c'est-à-dire que c'est pas... Half-Life 2 c'est un jeu qui reste absolument excellent et qui reste encore aujourd'hui très pertinent. Il y a des jeux qui en découlent, comme tu l'as dit, tu vois, Uncharted, les Walking Simulator, enfin... On a tellement de quoi faire, si tu veux, aujourd'hui. C'est pas comme... Je serais déçu si on était dans une période de famine et qu'on n'avait pas 10 000 jeux qui sortaient par an, tu vois.
Je pense qu'en plus, l'univers de Half-Life se prête extrêmement bien à la VR. Ça se voit bien dans le trailer, mais déjà, quand on jouait sur PC, moi, je me rappelle que j'étais terrorisée par les espèces de tripodes là, qui se baladent dans la ville, tout ce qui est crabhead, etc. Je me dis, être dans le jeu, avoir des crabhead qui te sautent à la tête, de voir ces espèces de tripodes géantes passer au-dessus de toi, enfin, ça donne une toute autre dimension à l'univers.
Ouais, complètement. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que le jeu, il va effectivement exploiter la VR de manière peut-être intelligente, peut-être d'une manière qu'on n'a pas encore imaginée et qu'ils peuvent peut-être pas montrer dans le trailer. Parce que c'est aussi ça le souci avec la VR, c'est que c'est très difficile de montrer réellement ce que ça apporte par rapport à un écran classique. Et du coup, là, moi, je te dirais si je suis déçu une fois que j'aurai lu les tests. Si finalement, c'est juste un espèce de FPS++ avec quelques petits gimmicks. Genre tu dois tourner des objets ou les regarder façon Red Dead 2 pour regarder ce qui se passe en dessous. Je t'avoue que je serais déçu. S'ils ont trouvé quelques idées de gameplay qui sont effectivement impossibles à retranscrire sur un écran plat classique, là dans ce cas-là je tirerais mon chapeau et je dirais bravo, et je pense même que je serais capable d'acheter un Oculus Quest, puisqu'a priori moi j'ai le PC pour faire tourner tout ça.
C'est oui, d'ailleurs, je parlerai dans un instant de l'Oculus Quest, mais j'ajoute à vos commentaires tout à fait judicieux sur la question de l'ambiance que Half-Life 2, en particulier, en partie à cause des améliorations graphiques, c'est une ambiance hyper oppressante, un design de la ville City 17 qui est un vrai personnage du jeu et qui se prête, vous avez tout à fait raison, complètement à ce type d'interaction. Et on peut imaginer que ce qu'on voit dans le trailer, Alix qui doit attraper un flingue sur une étagère et donc il faut pousser les trucs, enfin, on bouge le bras et tout tombe et on attrape le flingue, on attrape le chargeur, on doit le coller dans le pistolet et puis viser, et tout ça c'est le sentiment d'immersion que permet la réalité virtuelle, qui va être, on l'imagine, exploité comme il est impossible de le faire dans un jeu classique. Maintenant, l'immense question, c'est est-ce que ça va être intéressant sur un jeu de 20 heures? Est-ce qu'on va pouvoir jouer plus d'une heure ou deux, même une heure, ça fait long en VR à la suite, etc. etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sur les épaules de ce jeu, et il est possible que ça soit le premier vrai jeu qui fait envie, comme je le disais, en réalité virtuelle. Il est possible aussi que le ballon se dégonfle, mais ça, on le saura quand on aura les premiers tests.
On n'a pas encore d'infos sur la durée de vie.
Ils disent que c'est un vrai jeu full length, donc on imagine, je crois, 15-20 heures. Ouais, tu vois, au moins 10 heures minimum. Donc,
C'est ce qu'on dit. Ouais.
Est-ce qu'on a des infos, parce que moi, je ne me suis pas tant renseigné que ça dessus, est-ce qu'on a des infos sur comment on se déplace dans le jeu? Ça, alors, en VR, c'est un des
Ouais, tout à fait. Ils utilisent vraiment toutes les options. On peut soit... alors, pour les casques, on a les room scale et les standing, c'est-à-dire, et les assis, donc on peut être assis, debout ou se déplacer. Et pour les déplacements en jeu, on peut soit effectivement se déplacer, donc marcher carrément, soit utiliser les systèmes où on envoie un petit... les systèmes de téléportation. On peut utiliser les systèmes de... Ah, mais ça marche bien, hein, la téléportation.
Mais du coup, je reviens sur ce que je disais. Je suis déçu.
ils sont obligés.
Je trouve ça inintéressant comme façon de faire. J'ai l'impression de jouer à Myst, dépenser 2000 euros de matériel pour se déplacer d'une case à une case.
Tu peux aussi te déplacer en te déplaçant normalement, c'est-à-dire en avançant comme dans un FPS. Oui, tu peux. Ils l'ont dit. Donc, mais ils ratissent très large en fait. Pour faire en sorte, mais le problème de ce mode de déplacement, c'est que ça donne la gerbe tout de suite, tu vois, pour les gens qui n'ont pas l'habitude.
Mais ça, regarde, c'est pas la faute de Half-Life Alyx, c'est la faute de la technologie. Et moi, en fait, le problème.
C'est la faute de la physiologie, presque, plus que la technologie.
Ouais, mais justement, pourquoi continuer d'insister à faire un truc qu'on sait pertinemment qu'un tiers de la population gerbe après 30 minutes
Pour les deux autres tiers. Et justement, ils te proposent l'option, si jamais tu peux pas utiliser ce moyen de déplacement, ils te proposent les autres options. Donc, tu auras vraiment le choix.
Bien d'accord. Mais c'est, je veux dire, ils sont censés être les évangélistes de la VR. Ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont investi des sommes colossales dans leur propre casque. Et là, on l'a vu, ils sont obligés d'arrêter la vente de leur manette parce que c'était de la daube. Ils essayent de pousser au maximum leur casque parce que forcément, Oculus en face a envoyé du lourd. Hein, tu l'avais déjà dit, Patrick, avec le Quest, etc. Et donc, forcément, ils essayent de pousser la VR. Mais moi, en fait, fondamentalement, j'attends toujours qu'on me prouve que j'ai tort sur le fait que la VR, il y a un défaut qui est beaucoup trop gros. Tu vois, il y a un défaut qui est beaucoup trop grand. sur l'immersion, sur la capacité à ce que ça soit universel, etc. Et qui fait que il y aura toujours, tu vois, un défaut intraque à la technologie, tu vois.
C'est, ouais, cette histoire de synapse. Écoute, on va voir hein, si
du
ça
coup,
se trouve.
C'est ce que j'attends en fait de Half-Life. Ouais. Tu vois, si tu parles de déception, c'est pas tant à l'univers d'Half-Life ou la série ou le troisième ou même l'histoire. C'est de savoir si Valve, avec leur capacité, leurs compétences et leur expérience de la VR, parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, est-ce qu'ils sont en mesure de mettre un terme à ça ou en tout cas de réduire drastiquement la problématique du cinétose et des placements, etc. Parce que s'ils sont capables de faire ça, ils vont pouvoir effectivement ouvrir les vannes pour que d'autres gens s'engouffrent dans la VR enfin, et nous proposent autre chose que soit des expériences avec un point fixe, donc Elite, jeux d'avion, Flight Simulator, tout ce que tu veux, tous ces jeux-là qui marchent tant que t'as pas besoin de te déplacer, mais à force de dire on va vous faire des vrais jeux, bah oui, mais il faut qu'on se déplace dans cet univers.
Bah peut-être donc, que voilà, soit c'est, ça, c'est possible.
C'est là que je les attends.
C'est possible, effectivement, ça serait idéal. Il est aussi possible, on verra, hein, mais il est possible qu'ils réussissent à rendre le jeu avec ses déplacements. Je suis d'accord avec toi, hein, les déplacements, genre en se téléportant, bon, c'est un petit peu, on a l'impression d'être sur Myst, je suis complètement d'accord, mais il est possible qu'ils réussissent à habiller ça de manière suffisamment intéressante, à rendre le jeu au-delà de cet élément suffisamment intéressant pour te convaincre, pour nous convaincre, quoi.
Et non, c'est à ça qu'on... Peut-être bien, ouais. Ouais.
Bon bah on verra hein. Le jeu sort en février donc profitez des promotions pour upgrader votre PC parce que il faudra quelque chose. C'est en gros au niveau carte graphique il faut au moins une 1060 oui c'est ça, une 1060 donc bon c'est pas non plus inatteignable mais moi qui ai un PC qui a 5 ans c'est pas tout à fait dans mon rayon. Il faudrait peut-être que
je me demande si ce sera compatible avec Shadow. Tu peux utiliser
alors oui, un casque VR. Tu peux utiliser un casque VR avec ton Shadow. C'est même un test que j'ai fait au moment, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais au moment où le Oculus Link a été lancé, il n'était pas compatible avec ma carte graphique. Donc, je me suis connecté sans fil à mon Shadow en France depuis la Finlande avec mon Oculus Quest. Ça marche, mais je ne pense pas que ça marche assez bien pour être jouable sur le long terme, peut-être et sans doute à cause de la distance. Mais c'est possible. Donc effectivement, un truc intéressant, c'est que le Shadow nouvelle version arrive en février aussi. Donc ça sera peut-être le moment. Et moi, c'est un truc que je vais tester. D'ailleurs, il faut que...
Là, je t'arrête sur un côté très mercantile. Tu m'as dit l'Oculus Link, il est déjà sorti. C'est-à-dire que là, je peux m'acheter un Oculus Quest et avoir ce fameux câble ?
Tout à fait. Alors, le câble en lui-même...
Ouais,
oui, bah, complètement. Le câble en lui-même, le truc, c'est que tu peux utiliser n'importe quel câble USB, sauf qu'il faut que ça soit un câble USB d'un type spécifique, c'est-à-dire d'un côté USB-C pour connecter au Quest, bien sûr, et puis de l'autre côté USB-C ou USB-A, mais USB-A 3.0 au moins, donc USB 3, les bleus. Et il faut qu'il tienne la charge et la donnée sur toute la longueur du câble. Et tous les câbles ne font pas charge et donnée. Et bien sûr, tous les câbles ne sont pas assez longs pour être utilisables avec le Quest. Alors moi, j'ai fait tous mes câbles...
Ah, faut tester avec le câble de la Switch, non ?
Je crois pas que le câble de la Switch le fasse. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Parce que le câble de la Switch, il fait que la... Et d'ailleurs, il est accroché au chargeur. Je crois qu'il fait que... Il y a beaucoup de câbles qui font soit que la charge, soit que les données, ou alors qui font les deux, mais qui ne tiennent pas suffisamment bien sur la longueur, parce que tu veux un câble long. Et moi, j'ai testé tous ceux que j'avais à la maison. Le seul qui marchait, c'était un câble de 1 mètre. Et donc, j'étais connecté au dos de mon PC et la tête complètement sur le PC, tu vois. Pour,
merde. Okay.
C'était, là, j'ai trouvé un câble qui fait 2 mètres qui fonctionne aussi, donc ça va un petit peu mieux. Mais concrètement, ouais, ça marche super bien. Alors, ils vont sortir Oculus un câble spécifique de 5 mètres qui fonctionne. Donc à ce moment, on aura quelque chose à acheter. Ça coûtera un petit peu cher, mais bon, ça vaut le coup parce que ça vous permet de connecter votre Oculus Quest, donc le casque indépendant, pour ceux qui ne savent pas, qui a un processeur de téléphone mobile, donc dont les graphismes ne sont pas incroyables, mais qui n'a aucun fil, qui est quand même une super affaire, et ben vous le connectez à votre PC, et vous pouvez utiliser tous les jeux pour Oculus Rift, donc sur PC, et tous les jeux Valve, et tous les jeux Valve VR, donc ça vous fait en fait
en plus,
un Rift.
L'écran, il est bien, il me semble. Donc,
il est pas mal, ouais. Il est meilleur, si je ne me trompe pas, que le premier Rift. Il n'est pas aussi bien que que le Valve Index, qui évidemment coûte 1000 euros. Mais le Oculus Quest, il coûte 400 avec les manettes. Et les manettes sont pas mal du tout. Donc, ça reste un investissement. Mais aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le meilleur deal au niveau réalité virtuelle, parce que c'est le meilleur de tous les mondes, quoi. Et vraiment, ça marche. Ça marche. Moi, j'ai pas noté de... Alors, je viens de casque peut-être un petit peu moins performant. Quelqu'un qui aurait un casque de meilleure qualité se dirait peut-être, ah ouais, quand même, l'écran est moins bon, etc. Mais vraiment, moi, je n'ai pas du tout noté quelque chose de gênant au niveau de la qualité d'image. Au contraire, j'ai trouvé ça vraiment très correct. Bon. Donc, voilà, si vous êtes intéressé et que vous vous dites que vous avez besoin d'un casque pour essayer Half-Life Alyx dans quelques mois, bah, c'est peut-être celui-là qu'il faudrait regarder.
Bah, écoute, je suis en train de me dire qu'avec les économies que je vais faire en me mettant à Shadow, je vais peut-être investir... Si le jeu est bien dans un casque VR.
Ah bah voilà, écoute. Alors, je ne te garantis pas que ça marchera en réalité virtuelle avec Shadow. Hein. Ça fonctionne techniquement, je ne sais pas si la latence sera assez bonne, etc.
Ouais,
donc, c'est la grande question. À noter au niveau réalité virtuelle que Facebook a acheté le développeur de Beat Saber. Tu évoquais Beat Saber, Benoît. C'est sans doute le meilleur jeu de réalité virtuelle, un jeu de rythme vraiment excellent, sur lequel j'ai passé bien plus de 10 minutes. Benoît, qui est vraiment super sympa, Facebook les a achetés. Je dirais que Beat Saber, c'est le jeu auquel tout le monde dit, c'est le jeu VR auquel, que vous devez tester si vous avez un casque, et c'est tout à fait justifié, il vaut vraiment le coup. Et à part ça, quoi d'autre ? Ah oui, Facebook commence à débaucher des streamers aussi. Ils ont récupéré Jeremy Wang, qui est connu sous le nom de Disguised Toast, qui a commencé sur Hearthstone. Et maintenant, il stream exclusivement sur Facebook Gaming. Donc, la guerre du streaming de jeux est définitivement là pour les plateformes comme Twitch, Mixer, Facebook, etc. J'aurais pas pensé que Facebook allait débaucher des gens.
On va plus savoir sur quoi regarder nos streams. Hein. Il y a trop de plateformes là.
Jusqu'à présent, les gens qui ont été rachetés, c'est des gens dont soit j'avais jamais entendu parler, soit que je regarderai jamais de ma vie, donc c'est tant mieux pour
oui,
eux.
Oui, c'est ça. Peut-être pas le plus.
Parce que tu vois, genre Ninja, ou je sais plus quel était l'autre là, qui avait été débauché.
Chez Mixer aussi. Ah, j'ai oublié son nom, mais oui.
Ouais, voilà, machin. Du coup, enfin. En fait, je sais pas, je pense qu'ils sont. Facebook, avec le streaming, ils sont dans leur petite bulle depuis tellement longtemps que.
Bah c'est, moi, j'ai été surpris qu'ils prennent une exclusivité chez quelqu'un. Enfin, oula, qu'est-ce qui se passe ? Non, tais-toi. J'ai ouvert une page web et ça m'a parlé en finnois. Non, mais tu vois, moi, j'aurais pas pensé qu'ils fassent ça. Mais tu sais, Twitch et le streaming de jeux vidéo, c'est comme YouTube. Hein, il y a tout pour plein de gens. Et clairement, là, ils cherchent des gros noms. Il a quand même 1 million de followers, Jeremy Wang. Mais oui, d'ailleurs, c'est marrant, depuis que Mixer a récupéré Ninja, je reçois des mails de Twitch me disant « Oh, regardez ces streamers comme ils sont cool pour essayer de... » Enfin, ils font un peu plus d'efforts pour t'amener à la plateforme et regarder de nouveaux streamers, quoi.
Oh, d'ailleurs, ouais. J'avais vu une news, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, à propos de Mixer, qui était assez intéressante, là, qui étudiait un petit peu les datas depuis que Ninja y était arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand nombre de gens qui s'abonnent à Mixer, qui n'étaient pas des abonnés, mais par contre, le nombre de viewers moyens de la plateforme n'a pas augmenté. Ah bah en fait, il y a plein de gens qui sont abonnés, mais qui, en fait, il n'y a pas plus de gens qui regardent. Et Ninja, quand il est sur Mixer, il fait des stats qui sont absolument risibles. J'ai suivi ça régulièrement et ça ne marche pas. Enfin, tu vois, ouais. En plus, on se souvient de l'espèce d'échec du lancement de Gears of War 5, où il était payé pour le faire, mais en fait, il se faisait tellement chier qu'il jouait à WoW en parallèle.
Ah, j'avais pas entendu parler de ça.
Ah si, ça, en fait, terrible. Il avait son perso de WoW en parallèle, parce que c'est, en plus, il y avait les problèmes de file d'attente, donc en fait, il restait tout le temps connecté pour pas se faire kick, et il essayait de jouer Gears of War, mais il s'en foutait du jeu, tu vois, il en avait rien à cirer. Donc, régulièrement, il rebasculait, il faisait une quête sur WoW, et hop, il revenait. Mais bon, comme il était payé par Microsoft pour dire du bien des jeux... forcément ça la foutait mal, quoi.
Ouais. Et du coup, quelle conclusion on peut tirer de ça ? C'est qu'au final, les gens sont plus attachés à la plateforme qu'à la personne.
Bah, c'est la puissance, la puissance de la de comment dire, de l'acteur établi. Twitch est déjà établi, ils ont le monopole, et donc automatiquement, mécaniquement, les gens y viennent. Et à mon avis, ça c'est un petit peu... il ne faut pas enterrer ni Facebook ni Microsoft, bien sûr, avec Mixer. Je pense qu'à terme, ça pourra peut-être donner quelque chose du côté de Mixer s'ils accumulent les deals de ce type-là. Mais il en faut beaucoup, je ne sais pas s'ils vont suivre sur le long terme, quoi. Mais ouais, je pense qu'ils ont pas, ils sont pas lancés là-dedans juste pour faire un deal avec Ninja ou avec deux streamers et s'arrêter. Ils doivent avoir des plans plus long terme, je pense. Donc, mais clairement, ça, là, ça a pas transformé l'essai, quoi. Avec
ça devrait aboutir une fois que la prochaine Xbox sera sortie, puisque l'idée c'est de la prochaine génération à écouter les gens de chez Sony ou Microsoft quand tu les croises en salon, c'est ils veulent plus ou moins transformer chaque utilisateur en streamer. Mmh. Donc,
ouais, ça, donc,
je pense que c'est un peu l'idée. Hein. Ils veulent intégrer Mixer de manière beaucoup plus. Je pense sincèrement que Mixer, tu pourras l'avoir dans un petit coin de ton écran en permanence pendant que tu es en train de jouer à ton jeu, ouais. Pour justement pouvoir basculer soit à regarder quelqu'un, soit à toi-même streamer à tout moment, parce qu'ils veulent, développer ce truc-là, quoi. Mais
ouais.
Mais sinon, bon, ce qui est sûr, c'est surtout que... une bulle, en fait. Hein, pour l'instant, c'est qu'il y a une espèce de bulle autour de ce truc-là, et bah, du coup, ils en profitent, et tant mieux pour les streamers qui se font débaucher à coups de millions, parce que bah, ça leur assure leur avenir, quoi.
C'est l'impression que ça donne. Après, du coup, le problème, c'est aussi que t'éclates la population sur je sais pas combien de plateformes, et du coup, bah, forcément, les gens sont moins nombreux. Et...
Ouais, mais est-ce que c'est si grave que ça, tu vois ? Déjà, bon, les gens, ils râlent parce qu'il faut installer Epic, mais là, on parle d'avoir un onglet. Enfin, tu vois, c'est juste un onglet dans ton navigateur. T'as un onglet Mixer, t'as un onglet Twitch. Est-ce que c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, quoi ?
Ouais, je pense que les bénéfices d'avoir plusieurs concurrents sur un marché sont toujours supérieurs à celui d'un petit peu moins de praticité. Mais bon. Justement, puisqu'on parle de la prochaine génération, on a des rumeurs sur ce qui va se passer avec la Xbox ou avec les Xbox. On a un article de Kotaku du fameux Jason Schreier, qui est sans doute le journaliste jeu vidéo le plus... Comment dire ? Est-ce qu'on peut dire le meilleur journaliste jeu vidéo du monde ? Bon, en tout cas, celui qui sort le plus d'enquêtes sérieuses.
Parce que du coup, on n'est pas. Non, mais c'est pas un concours de bits, donc c'est déjà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelqu'un qui fait
moi,
des enquêtes.
Moi, je dirais
de...
que c'est l'un des rares journalistes de jeux vidéo, puisque la plupart des gens qui sont journalistes ne le sont pas, vu qu'ils font jamais de travail journalistique. Ils font que donner leur avis et relayer des news. Mais du coup, lui, effectivement, ça fait partie des rares personnes qui vont chercher l'info. Et ça, ça effectivement, ouais. C'est notable. Maintenant, de dire que c'est bien, etc. Je lui donnerai pas le bon Dieu sans confession, parce qu'il y a des trucs qu'il dit qui sont quand même très limites.
Oui, on peut effectivement discuter du contenu, mais en tout cas, c'est un journaliste d'investigation et c'est vrai que c'est un peu rare dans le domaine. En tout cas, ce qu'il nous a sorti cette fois-ci, c'est des rumeurs ou en tout cas un rapport de ce qu'il a entendu, ce qu'il a investigué sur la prochaine console de Microsoft. Et en l'occurrence, on avait entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait deux machines tout au cours de l'année dernière et de cette année. Et il les avait un petit peu contredites à l'E3 en nous disant qu'il n'y aurait qu'une seule machine ou en laissant entendre qu'il n'y aurait qu'une seule machine. Et là, on revient sur cette idée de deux machines, une très puissante, une un peu moins puissante. Alors voilà ce qu'il a comme info aujourd'hui, sachant que la sortie est encore dans à peu près un an et les choses peuvent changer. Mais on aurait... une console nom de code Anaconda, comme on en avait entendu parler, qui serait la console puissante avec plus de puissance graphique aussi que la deuxième. Alors, c'est la console dans laquelle il y a tout, hein, qui est une console telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Mais celle qui est intéressante, c'est l'autre console, la console nom de code Lockhart, qui aurait a priori... pas de lecteur de disque, donc c'est une version toute numérique, toute digitale, mais surtout dont la puissance graphique brute est très inférieure à celle de l'autre version. On est, selon un développeur, à peu près autour de ce que peut faire une PlayStation 4 Pro. Alors, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a le fait qu'il y a un disque dur, ou plutôt un SSD en disque dur. Il y a d'autres éléments aussi, mais en puissance graphique brute, on est plutôt dans la catégorie de cette génération que dans la catégorie de la prochaine. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça amène une différence pour les développeurs, pour développer les jeux sur cette plateforme, puisqu'ils devraient supporter deux types de configurations vraiment différentes. Selon les sources de Schreier, encore une fois, la cible pour la version puissante, c'est une résolution 4K avec 60 images secondes, en cible idéale, ça ne veut pas dire que tout le monde y arrivera. Et pour la version moins puissante, on est à 1440p en 60 images secondes. Bon, en gros, on a une résolution 4K, une résolution 1440p, ce qui est déjà quand même pas mal. Ce qui est intéressant donc à discuter, c'est cette version moins chère, moins puissante. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça va poser des problèmes parce que les développeurs vont devoir s'emmerder à faire deux versions de chaque jeu un petit peu? Parce que l'idée, c'est que si elle est moins puissante, a priori, le processeur pourra tenir le taux de rafraîchissement, mais le processeur graphique, lui, ne tiendra pas sur des grosses textures, sur une grosse résolution, etc. Donc, il faudra un petit peu moins de puissance graphique sur la version, enfin, de complexité graphique sur la version moins chère.
Est-ce qu'au final, ça ne va pas être un peu pareil que pour la PS4 et la PS4 Pro ? Ça a quelques différences graphiques, mais...
En fait, l'impression que j'ai, c'est qu'on est plus proche. Parce que en réalité, la différence entre la PS4 et la PS4 Pro, c'est uniquement le fait d'afficher en 4K. En réalité, c'est vraiment que ça, quoi. Il y a très, très peu de choses qui changent à part ça. Une comparaison plus proche serait peut-être celle de la Xbox One X et de la Xbox classique, parce que la Xbox One X a vraiment des capacités graphiques plus importantes, en plus du fait d'afficher en 4K. Et la différence serait encore plus grande qu'entre ces deux-là. Ou alors, comme dans le monde du PC, où là, on a un univers bien plus complexe, puisqu'il y a des centaines de configurations différentes. Mais oui, on est plus proche de ce type de différence que PS4 et PS4 Pro.
Est-ce que l'idée pour Microsoft, alors évidemment, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bien, ça je t'avoue que je pense que c'est assez secondaire, maintenant que les consoles sont assez unifiées au niveau on va dire du développement, quand tu développes un jeu, tu vas juste le scale pour qu'il tourne en 2K au lieu de 4K, etc. Donc je pense pas qu'en termes de développement ça soit beaucoup plus coûteux, ou en tout cas ça sera... suffisamment marginal pour que ça soit adhéré.
Je pense qu'il y aura des questions de texture aussi. C'est pas qu'une question de résolution. Peut-être même de niveau de détail ou de modèle, tu vois, en plus ou moins.
Mais de la même manière que, par exemple, sur ton jeu PC, tu peux télécharger les textures en 4K, 2K via un téléchargement annexe. Rien ne t'empêchera sur cette potentielle hypothétique console d'avoir moins de textures et potentiellement peut-être d'en avoir plus. Enfin, tu vois,
C'est sûr que venant du PC, c'est pas si complexe, ouais.
Et comme les jeux aujourd'hui consoles sont développés quasiment de la même manière que sur PC, parce que en termes de PS5 et de la prochaine Xbox, a priori, les performances sont quasiment identiques. Et surtout, la structure, elle, sera clairement identique. C'est-à-dire qu'on va développer les jeux de la même manière qu'on les fera sur Xbox One. Ils tourneront sur PS5, enfin sur Xbox truc, ils tourneront également sur PS5. Un truc qui m'intéresse, en fait, c'est plus par rapport à ce qu'essaye de faire Microsoft. Je pense que l'idée, c'est de proposer enfin une console abordable, comme ils ont essayé de le faire avec la SAD, mais que ça n'a pas marché, ou la Xbox One S.
Et alors la SAD, c'est la S All Digital Edition, c'est-à-dire la console qui n'a pas de lecteur optique.
Disque, ouais. Et l'idée, c'était comme ça que je l'imagine, c'est que on imagine une seule PlayStation 5, parce que je pense que Sony fonctionnera de cette manière-là, et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Donc je les vois mal changer leur fusil d'épaule maintenant. Par contre, Microsoft, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de ce qu'ils veulent faire en termes de puissance, ça va leur coûter cher, et plutôt que de proposer une console trop chère qui risque de une fois de plus se planter, comme ça avait été le cas au lancement de la Xbox One, je pense que ils se sont dit, on va proposer en fait quelque chose de légèrement moins puissant avec la même sélection de jeux, les mêmes services, le Game Pass, le machin, le bidule, pour des gens qui ont un budget un peu moindre, et ça va leur donner un super argument marketing, parce qu'ils vont peut-être pouvoir annoncer une console à 349€, par exemple, dès le jour de la sortie, pour une nouvelle génération, parce que tu auras quand même un petit bon technique par rapport à la Xbox One actuelle. Et en même temps, pour les gens qui ont du blé, ils pourront annoncer leur console à 600 ou 700 balles, et ils arriveront à s'en sortir peinard, parce que du coup, les gens qui seront prêts à mettre autant de blé dedans en auront pour leur argent, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, moi je crois pas à
un compromis en fait.
Si ça n'avait pas fonctionné avant, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait maintenant?
Moi je crois qu'il y a
une... Ça fonctionne déjà maintenant.
Tu vois, je sais pas, j'avais l'impression que tu disais que la version SOD avait pas bien marché.
Elle a pas été poussée plus que ça, tu vois, mais ils ont tenté quelque chose et au final, bah, aujourd'hui, la Xbox One S, normalement, je crois qu'il faut acheter combien ? C'est 3 boîtes de céréales pour avoir une Xbox One S offerte, un truc comme ça ? Ou 4 boîtes, je sais plus. Mais elle coûte rien, tu vois, cette console. Donc, ouais. Ils ont déjà, en fait, réussi à créer cette distinction entre une console vraiment, non pas bas de gamme, mais accessible en termes de prix et une autre version. Je pense que c'était peut-être trop tôt pour la version digitale, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est pas inintéressant.
Oui, et puis c'est la fin
de proposer, tu vois, un prix plus bas et un prix très gros pour deux expériences différentes en fonction du niveau de commitment, on va voir, que tu veux avoir. Tu vois, si t'as un X tatoué sur le bras, tu vas te saigner aux quatre veines pour acheter ta Xbox à 600 balles ou 700 balles. Et par contre, sinon, bah, tu auras quand même les mêmes jeux un peu moins jolis, mais peut-être pour 300 ou 400.
Ouais. Alors moi, je vois pas la console, la grosse, à 600 ou 700 balles. C'est pas possible. Ils sont tellement plantés quand ils ont voulu faire des trucs chers, de tous, hein, Sony et Microsoft. Maximum, je la vois à 499 et encore.
Ouais, ça me paraît 549, 579, je pense que tu vois.
Ah non, moi ça me paraît trop cher, mais peut-être. Hein. Ouais, moi je pense que 499, c'est déjà le maximum. Mais oui, il y aura sans doute une version. Moi, je vois plus, en fait, la pas chère être vraiment pas chère. Donc, genre, lancée à 299. Tu vois, un truc comme ça.
Donc, il y aurait quoi, 200 balles de différence entre les deux
C'est ça, quelque chose comme ça.
Bah, c'est énorme, hein.
Ah bah, c'est énorme, oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est surtout que la console chère, je la vois pas à plus de 500 euros.
Ouais, non, peut-être que je m'emballe là-dessus, mais par
un petit peu, je crois. Mais celle qui est pas chère...
au-dessus et en dessous de la PlayStation 5. Ça me paraît mal. Hein, tu vois.
Peut-être, ouais. Et surtout, la version en dessous, comme tu le disais, ils vont mettre en avant l'abonnement, que ce soit le Xbox Game Pass hyper intéressant comme il l'est déjà aujourd'hui. Et du coup, oui, bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas une... Si vous êtes comme Escarina, par exemple, qui n'a pas une bonne connexion Internet à la maison, eh ben, évidemment, vous ne pourrez pas télécharger les jeux. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, même si vous achetez votre jeu dans le commerce, quand vous le mettez dans votre machine, généralement, il y a un download de quelques gigas, voire quelques dizaines de gigas qui se lancent, de toute façon. Donc, je ne suis pas convaincu que ce problème soit... Enfin, c'est un problème, mais il n'est pas tellement différent. Il est un peu différent seulement quand on a la possibilité de mettre des disques dans la machine aussi.
Oui, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est le disque qui... Enfin, le lecteur de disque qui prend, entre guillemets, quoi. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on retire ? Est-ce que c'est vraiment ça qui coûte le plus cher dans une machine ?
Bah, c'est pas tant que ça coûte cher, en fait. C'est que du coup, tu as... En termes de temps d'accès, etc., aujourd'hui, on a des vitesses qui sont tellement plus rapides avec du SSD que c'est quand même mieux d'avoir l'intégralité de tes données sur un seul disque.
Non, et puis surtout, non, mais c'est la seule chose qu'on peut enlever, en plus. Et c'est plus un facteur différenciant pour du ciblage, je crois, mais c'est la seule chose qu'on peut enlever. Le reste, tout le reste est nécessaire à avoir. Peut-être qu'ils peuvent enlever un port USB ou un truc comme ça, tu vois, ou ce genre de choses, mais c'est à peu près tout. Et puis surtout, les abonnements, il y a le Xbox Game Pass, et j'imagine, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, mais imaginez, par exemple, que vous ayez un service xCloud qui fonctionne suffisamment bien pour être en option avec cette console aussi. Ça veut dire que si jamais vous voulez jouer en vraiment bonne qualité Xbox Plus, eh ben vous pouvez jouer par le cloud si vous avez une connexion qui tient la route. Donc, même en achetant la console pas trop chère, vous n'abandonnez pas complètement cette idée de pouvoir peut-être jouer en qualité comme ceux qui ont acheté la console chère. C'est un argument de vente qui est pas mal. C'est ça. Et en plus, alors là, si on se met à rêver comme des fous, quoi, imaginez, vous avez votre machine qui tourne avec votre jeu en local. Et en parallèle, il y a une technologie de synchronisation qui est développée par Microsoft pour vous faire passer sur le même jeu qui tourne de la même manière en streaming. Et donc, ça synchronise les deux et avec un bouton, vous pouvez passer de votre jeu local au jeu qui est streamé en meilleure qualité graphique. Du coup, si jamais vous vous rendez compte que vous avez des problèmes avec le réseau, eh ben vous repassez sur le jeu en local et c'est le temps qu'il faut Et puis, vous pouvez repasser sur le jeu en streaming ensuite, juste en appuyant sur un bouton. Bon, ça me paraît compliqué à faire et l'intérêt n'est pas énorme. Mais c'est juste que bah, je te dis.
Même, non, si, c'est pas bête, hein, mais tu vois, on va dire, on va rêver légèrement moins et on va être sur un truc un peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'il bah, faudra peut-être que tu quittes, que tu sauvegardes, tu reviennes sur l'écran principal et tu relances ouais. le jeu en mode streaming avec la même sauvegarde. Ça me. Complètement ah bah ça, hors de portée.
Non, ça c'est complètement faisable, oui, je pense que ça sera même le cas, quoi.
Mais bon, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, jouer en 2K, c'est-à-dire en 2560 par 1440, enfin, c'est pas déconnant, hein, c'est super propre. Hein. Mmh. Avec les améliorations visuelles qu'ils veulent rajouter, notamment le ray tracing, etc. Enfin, là, moi je le vois, je suis passé en 2K il y a pas longtemps sur mon PC. L'apport de la 4K, il est négligeable par rapport aux améliorations visuelles technologiques pures, tu vois, qui sont le ray tracing, certains trucs de streaming, de texture, etc. Enfin, du coup, la définition, c'est pas l'Eldorado. Je comprends qu'ils aient envie de justifier que les gens, ils aient acheté une télé 4K, 60 FPS, machin. Bon, bah, d'accord. Mais je pense qu'en termes de visuel, on va de toute façon avoir un petit gap par le fait qu'on va jouer sur du SSD, donc on va réduire drastiquement les temps d'accès, on va pouvoir charger des textures plus grosses, on va pouvoir réduire les temps de chargement, etc. Et on va rajouter des trucs ultra importants comme le ray tracing ou ce genre de trucs qui, pour le coup, changent vraiment la façon dont les jeux ils s'affichent, quoi.
Mais alors, de toute façon, le discours autour de la 4K aujourd'hui, il est vraiment purement marketing, puisqu'on sait que ça tourne mieux sur une bonne 2K. Malheureusement, je pense que si aujourd'hui ils affichent sur les stats de leur machine qu'elle tourne en 2K et pas en 4K, tu vois, bêtement, le public risque de se dire « Ah bah, pourquoi pas en 4K ?»
C'est encore la question du nombre de P, quoi. T'as combien de P ? Moi, j'ai 1080 P, toi, t'es en 900 machin.
Ah bah ouais, ouais. Au bout d'un moment, tu vois, après les bits, on passe au P. Hein. Dans tous les cas, ça reste très mal poli dans le jeu vidéo. Hein.
Ouais, mais ceci dit, pour la question du ray tracing, qui est effectivement une amélioration intéressante, je me demande si une machine telle qu'ils en parlent, bon, c'est dans cet article qui est encore des trucs non substantiés, je ne sais plus, mais il y a plein de développeurs qui n'ont même pas reçu les kits de développement de la Xbox. Les kits de développement de la PS5, d'ailleurs, il y a des images qui tournent, elle est hyper moche. Enfin, le kit de développement est hyper moche, mais bon.
Ah oui, ça, aux F1.
Ouais, mais celui-là, il est chez plein de développeurs. Du côté de chez Microsoft, il y a très peu de gens qui ont reçu les kits de développement. Mais si, effectivement, la console a à peu près une puissance de PS4, je ne sais pas s'ils peuvent faire entrer du ray tracing là-dedans. Encore qu'ils vont avoir un nouveau processeur qui aura du ray tracing sur le silicone. Donc, c'est...
Ouais, c'est le...
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
C'est censé être la grosse nouveauté là de chez AMD qui va proposer le même GPU. Hein. Ça va être la même chose chez PS5 et Xbox Scarlett, et etc. Et normalement, effectivement, ils devraient faire comme chez Nvidia et proposer le ray tracing avec une accélération matérielle. Donc un truc vraiment dans
donc
la machine,
même,
comme tu l'as dit.
Même sur la petite, ça devrait quand même être possible. Mais bon. Mm-hmm.
Moi, bon, de toute façon, ce qui va m'intéresser, comme d'habitude, ça va être leur jeu. C'est-à-dire que c'est
ça, bien sûr,
truc, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore un catalogue d'exclus qui a la même gueule que les exclus de chez Sony. Donc, il faut aussi qu'ils soient capables de montrer des trucs intéressants. Quoi.
Ce qu'ils disent, c'est que d'une part, on aurait Halo Infinite avec la console. ce qui joue beaucoup pour les États-Unis, un petit peu moins pour la France, mais quand même, c'est un gros morceau. Et puis, après, ils veulent avoir dans le Game Pass, enfin, des jeux exclusifs qui seront aussi dans le Game Pass, tous les 3 à 4 mois. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté tous les studios qu'ils ont achetés. C'est pas mal, tous les 3 à 4 mois, un jeu en plus. C'est marrant, je sais plus quelle émission j'écoutais, et je crois que c'était DLC, et quelqu'un qui disait, c'est pas mal de dire tous les 3 à 4 mois, c'est beaucoup mieux que dire, on va avoir genre, en 2020, on aura 3 à 4 jeux exclusifs, tu vois. C'est exactement la même chose, mais c'est beaucoup mieux de le dire
tous les 3
à 4 mois. Mais c'est pas mal, franchement. Tous les 3 à 4 mois, t'as un jeu qui arrive, que tu vas tester, dont tout le monde va parler, qui est sur ton abonnement Xbox Game Pass, ça le fait. Même si t'aimes pas tous les jeux en question, c'est des trucs que tu peux tester et c'est pas mal, quoi, je pense.
Ouais, c'est pas mal. Bah, ça fait envie, en tout cas. Bah, moi, maintenant, je suis devenu pro Game Pass Ultimate, tu le sais, Patrick.
Ah bah, tout le monde, oui, non, mais c'est sûr. Mais du coup, tu vois, une offre à, on va dire, allez, soyons fous, 299 € pour la console et l'abonnement Game Pass en plus à 10 € par mois, vous avez une console tout compris. Alors oui, il faut télécharger les jeux, mais c'est une console tout compris. Vous avez aussi accès au xCloud si vous avez la connexion qui va bien et les jeux qui arrivent et qui sont, vous avez un catalogue immense. Ça peut conquérir beaucoup de gens. Et là où la Xbox SAD ou les consoles aujourd'hui ont un petit peu moins de mal à convaincre les gens, comme vous en discutiez tous les deux, je crois que l'avantage qu'aura celle-là, c'est que c'est l'accès à la prochaine génération. Et un accès à la prochaine génération à 300 €, ça peut vraiment le faire.
Ouais, c'est un sacré argument. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans qu'on a des smartphones, des iPads, etc. Et j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre qu'il n'y avait pas de lecteur optique dans un iPhone ou un iPad. non, mais enfin, je veux dire,
non, je comprends ce que tu veux dire.
Streaming, on consomme en streaming, etc. Évidemment, sur Internet, tu vas avoir des gens qui vont râler, etc. Mais enfin, comme d'habitude, ça représente une fraction des gens. Je pense que annoncer à des parents, des étudiants, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, bah vous voulez les derniers jeux, les derniers services, Netflix, machin, bidule, et tout ça en plus avec un abonnement, avec 15 balles par mois ou 10 balles par mois, vous avez plein de jeux, et la console, elle coûte que 300 €. Bah forcément, c'est un sacré argument, t'imagines.
300, allez, 350. Et ils ont même des options où tu prends un abonnement et t'as tout. T'as la console, c'est genre, je sais plus, 25-30 € par mois. T'as la console et l'abonnement Xbox Live.
Ah oui.
Du coup, posons la question à celle qui est concernée. Toi, t'as une connexion ADSL qui est correcte, mais bon, c'est pas de la fibre de compétition. Ouais, mais t'as une connexion ADSL. Si on te dit demain, tu as une console sans lecteur de disque optique, tu achètes ou tu restes encore aujourd'hui?
La question qui me trotte depuis tout à l'heure, c'est quelle taille le SSD, on le sait ou pas?
Ah bah non, bien sûr que non, mais j'imagine on peut pas faire moins d'un téra. Je crois que c'est pas possible. Bah,
ça serait 800 gigas ou un téra, je le vois mal être en dessous. Même un téra, ça me paraît être le minimum, si tu veux, pour un point de vue psychologique.
Je pense, ouais.
Bah écoute, je pense que ça me gênerait pas trop. J'ai réfléchi depuis qu'on en parle. Il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais très attachée à l'objet physique du jeu, et en fait, je me rends compte que je le suis de moins en moins.
Mais surtout par rapport à ta connexion, tu vois, la contrainte d'avoir à télécharger tous les trucs, c'est ça la question.
En ADSL, tu mets combien de temps? C'est quoi? Tu mets une journée entière?
Non, pas forcément. Là, l'autre jour, j'avais téléchargé, je sais plus, je crois que c'était Sea of Thieves, je crois qu'il fait 45 gigas, quelque chose comme ça, et je l'ai téléchargé sur 3 ou 4 heures de temps, donc tu vois, ça a quand même été assez vite. Non, franchement, en fait, je suis tellement habituée. De toute façon, quand tu mets un jeu neuf dans ton jeu, il télécharge déjà des gigas. Je sais que je suis habituée, si tu veux, à pas jouer instantanément à mon jeu. Donc, je le fasse tourner. Ouais. Après, ils sont forts. Après, tu t'organises.
Ils nous ont habitués à tellement de trucs pourris.
C'est ça. Mais bientôt, j'aurai la fibre. Donc...
Non, mais même, par exemple... Ça ne te fait pas plus peur que ça, et n'oublie pas que si le service xCloud fonctionne, tu lances le jeu, tu lances l'install, et tu peux donc commencer à jouer pendant qu'il s'installe, mais en même temps, ça te bouffe ta connexion. Si elle n'est pas super bonne, c'est peut-être pas génial. Ok, j'ai rien dit.
Sur le principe, effectivement, ça me fait pas plus peur que ça. J'aurais peut-être juste un petit regret de ne plus avoir ma petite collection de jeux.
Ouais, bon, mais, ça, mais tout bon, le monde en a fait le deuil.
Enfin, pour le coup, ils ont de toute façon essayé de tuer cette idée-là depuis très longtemps. Je veux dire, ils ont supprimé les notices, ils ont rendu les boîtes de plus en plus fines, de moins en moins travaillées, plus difficiles à accéder. Enfin,
bah aujourd'hui, soit t'as, quand tu veux juste le jeu, t'achètes le jeu et t'as un disque et encore, c'est limite un code pour le télécharger de toute façon.
C'est ça.
Et si tu veux vraiment un bel objet, t'achètes une édition collector où là, tu vas avoir peut-être un truc un petit peu plus joli. Mais c'est vrai que ce milieu commence à être... Je suis tout à fait conscient du fait que il va y avoir plein de gens qui seront pas satisfaits de cette idée et qui vont dire non non moi je veux les jeux, moi j'ai pas une bonne connexion. Bien sûr, ces gens-là existent et évidemment qu'ils sont là, mais je pense qu'ils sont en train d'être de moins en moins nombreux et puis surtout il y aura toujours une option pour eux. C'est juste qu'ils devront acheter la console, bah peut-être un petit peu plus cher ou voilà, c'est la console telle qu'elle serait sortie. Généralement les consoles nouvelles quand elles sortent, elles sont plus chères et là ils offriront aussi, d'après ce qu'on semble comprendre, une version moins chère pour les autres. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change.
C'est les early adopters, les gens qui vont acheter la console en day one, en novembre ou début décembre prochain, c'est pas de toute façon, à mon avis, les gens qui hésitent et qui vont se dire « bon, bah, je vais m'acheter la console moins chère, etc.
Enfin, » C'est vrai,
tu vois, il y a des gens comme nous qui vont peut-être un peu mettre de côté pour être sûr de pouvoir l'avoir en day one, voire encore plus parce que c'est notre métier. Mais... je veux dire, les joueurs un peu plus lambda vont peut-être aussi laisser un peu de temps, voir, parce qu'il va y avoir encore pendant un ou deux ans, il ne faut pas qu'on oublie qu'il va y avoir des jeux qui vont sortir sur PS4 et Xbox One. Hein. Ouais. Il y a tout un tas de jeux qui sont déjà prévus dessus et qui vont continuer de sortir. Donc, ça va se faire petit à petit.
Je dirais qu'avant de faire mon choix, je regarderai la différence de prix entre les deux modèles de console et puis les comparateurs qu'on va forcément voir pleuvoir sur le net de le jeu qui tourne sur la version un peu cheap et le jeu qui tourne sur la version et voir à quel point la différence est flagrante, quoi.
Et puis, les jeux
que t'as l'écran, tu vois, pour voir ça, parce que c'est aussi pareil, si t'as pas une bonne télé et que t'as pas un bon moniteur, tu verras pas la différence.
Ouais. Bah, tu verras le ray tracing quand même, hein. Ça sera... Ouais. Bon, écoutez, on verra, a priori, toutes ces infos seront éclaircies à l'E3, qui mine de rien, on arrive en fin d'année, ça s'approche. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous écoutez cette émission, vous l'appréciez, peut-être que vous voudriez la soutenir. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Il y a Soifran qui a dit sur iTunes, qui a laissé un commentaire qui dit « J'écoute ce podcast depuis plusieurs années, il dit c'est gaming de grand ». Alors, je ne sais pas ce que c'est gaming de grand, mais de gens sérieux, des gens adultes, tu vois, qui sont... exactement, qui ne parlent pas de paix et de trucs comme ça. Je parlais de résolution.
Pas super gamerside.
C'est ça, exactement. En plus de me faire découvrir de super jeux, il offre souvent une vision très pertinente et pointue de cette industrie. Un must, bravo Patrick. Merci à toi, Soifran. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission financièrement. C'est hyper facile, ça se fait en 2 secondes. Et si vous appréciez ce que vous avez dans votre... téléphone sans lecteur optique toutes les 2 semaines, eh ben, vous pouvez soutenir avec le but ultime d'avoir à terme une émission toutes les semaines. J'aimerais bien, donc si vous aimeriez bien aussi, aller soutenir, c'est l'un des paliers que j'ai implémenté, donc ça serait super cool. Alors, on n'y est pas encore, mais plus de gens soutiennent, plus on s'en rapproche. Donc, merci à vous tous. Parlons un petit peu de jeux auxquels on a joué. Et en particulier, vous savez quoi, je vais commencer. Il faut que je parle de Outer Wilds. il y a plein de gens qui en parlent depuis très longtemps. Alors attention, c'est Outer Wilds et pas Outer Worlds. Hein. Les deux sont pas du tout le même type de jeu. Outer Wilds, c'est un jeu dont plein de gens parlent depuis des mois et des mois. Il est sorti cet été, je crois. En mai, d'accord, donc un petit peu plus longtemps encore. Et Benoît, notamment, en parle beaucoup. Mais il y a plein de gens... Enfin, toute la presse en parle et il y a plein de joueurs qui en parlent. Et je l'avais testé à l'époque où il est sorti et j'ai été complètement rebuté par le jeu. J'ai testé un petit peu, j'aimais pas les contrôles. J'ai joué peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Et j'arrivais pas à avancer, ça m'a énormément frustré. Et là, avec l'approche de la fin d'année, je me suis dit qu'il fallait que je lui redonne sa chance pour voir quels étaient mes jeux préférés. Et tellement de gens en parlent que je l'ai retesté. Et je crois que j'ai jamais fait un aussi gros retournement de ma vie dans les jeux. C'est-à-dire que j'étais coincé, en fait. On va faire un truc. On va, a priori, après cet enregistrement, on va enregistrer avec Benoît un petit segment où on va parler uniquement de Outer Wilds. Et je le diffuserai en épisode spécial pendant les fêtes de fin d'année. Et on va parler sans spoiler et avec spoiler et tout. On va le décortiquer comme on l'avait fait avec Nier Automata. Sauf que sur ce jeu-là, on n'était pas d'accord il y a 2 ans. Mais là, je crois qu'on tombe bien d'accord sur Outer Wilds. Et je le mettrai donc en épisode spécial en fin d'année. Peut-être que je le mettrai spécialement pour les patriotes, pour les gens qui soutiennent l'émission. Je le mettrai à la fin de 7 épisodes déjà. Donc, si vous soutenez l'émission, vous aurez ça en petit bonus, un petit peu en avance par rapport aux autres. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir l'émission hein, si vous souhaitez avoir ça. Mais le truc à savoir, c'est que j'ai eu ce retour de plusieurs personnes, notamment Mary qui a répondu sur Twitter quand je suis venu m'en plaindre. J'ai dit, j'arrive pas à rentrer dans le jeu, j'ai l'impression qu'il veut pas que je l'aime. Et elle m'a dit, en fait, il faut pas se focaliser sur la première planète où on dit d'aller. C'est un jeu d'exploration spatiale, en fait, avec un univers vraiment onirique, poétique et plein de découvertes à faire. Et il faut pas se focaliser sur la première planète vers laquelle te pousse le jeu. Et en fait, moi, j'y étais rentré avec un esprit bien de joueur de bas niveau. Vous savez, le joueur que je suis qui aime les triple A simplistes, simplets, les trucs un petit peu ridicules. Et en fait, le jeu me disait, bah voilà, et donc j'y allais et j'y arrivais pas, c'est une planète compliquée. Donc, ça me frustrait beaucoup. Et en fait, Mary m'a dit, mais non, essaye d'autres choses. Benoît, toi, tu m'as répondu aussi sur Twitter, c'est un jeu vraiment d'exploration, il faut aller explorer. Et là, ça m'a complètement ouvert le jeu quand j'ai suivi au conseil et je suis tombé en amour, comme disent nos amis canadiens, mais complètement tombé en amour de ce jeu. C'est un jeu incroyable. J'ai rarement eu une expérience comme celle-là dans le jeu vidéo. C'est un truc qui est tout à fait marquant. C'est un jeu qui a une intelligence, une poésie, une conception, tout a une raison. Même les contrôles que j'aimais pas au début, j'ai fini par m'y faire et ça contribue à l'impression que donne le jeu. C'est vraiment un jeu, pour le dire en quelques mots sans spoiler, on se réveille sur une planète et on est une planète avec des extraterrestres qui a essentiellement du bois et on monte dans notre vaisseau spatial en bois. Et on va naviguer entre les différentes planètes du système solaire pour découvrir un mystère qui nous est donné par petites touches, mais sur lequel on est laissé entièrement libre pour découvrir ce qui s'y passe. Et je ne vais pas en dire plus que ça, on en parlera dans la période avec spoiler qu'on va enregistrer avec Benoît après, mais je veux vraiment laisser le champ de jeu complètement libre pour les gens qui voudraient y jouer suite à cette discussion, parce que le plaisir du jeu, c'est vraiment la découverte, et tous les éléments de la découverte font plaisir et contribuent. Donc, je ne veux pas en dire plus que ça, c'est juste qu'on a cet univers avec des aliens bizarres, le vaisseau en bois qui est tout branlant et les différentes petites planètes qui sont comme des miniatures, c'est magique, c'est poétique, c'est merveilleux. Et je ne vais pas en dire plus.
voilà ça pour m'embête à ce que tu viens de dire, Patrick. Je suis très embêté.
Ouais, parce que tu ne l'as pas fait, toi
parce que non, je ne l'ai pas encore fait et je me dis que je vais attendre. J'ai 10 jours de vacances, la Noël, je me dis que je vais rattraper tout mon retard de jeux super bien que je n'ai pas pu faire et je ne sais pas si je vais réussir à tenir jusque-là.
Écoute,
celui-là, faut le faire une fois dans sa vie. Hein. Ça arrive,
c'est bien prévu.
Moi, ça fait partie de ces jeux qui seront... tu vois, je ne sais jamais quoi répondre quand les gens me disent « Ah, c'est quoi si tu n'avais qu'un seul jeu, machin ?» Et bon, bah, maintenant, du coup, dans la shortlist, il y a Outer Wilds, quoi. Très clairement, c'est vraiment un des jeux les plus fous auxquels j'ai joué depuis... ça fait 30 quelques années que je joue aux jeux vidéo et j'avais jamais vécu ça avant, donc...
Mais en plus, c'est exactement... J'ai l'impression, hein, de l'image que j'ai de toi, c'est exactement le genre de truc qui est pile dans ce que t'aimes. C'est un jeu qui ne te... dans lequel t'as aucune progression. Tout ce qui progresse, c'est toi, c'est ta connaissance, toi, en tant que joueur qui a l'expérience du truc, ta connaissance de l'univers, ta compréhension des mécanismes du truc. Et il n'y a aucun système de... Enfin, rien, pas une once de système de progression intégré au jeu, quoi. Il n'y a pas, évidemment, ni de niveau, ni de point de de spécialisation, d'armes de talent, ni de toutes ces conneries.
T'as même pas d'armes, t'as même pas d'objets à trouver. Ouais. C'est un knowledgevania, comme j'appelle ça. En fait, c'est un jeu
très bonne description.
Tu débloques en fait de la connaissance, et la connaissance te permet d'avancer. Mais le gameplay de base, ce que tu peux faire dans les 30 premières secondes du jeu, c'est ce que tu vas pouvoir faire durant tout le reste. Et avec ça, ils vont raconter toute leur histoire.
Donc, et il y a tellement.
Non, c'est un jeu qui est absolument brillant de toute façon. Ouais.
Je vais juste dire un dernier truc avant d'avancer. Il y a tellement de moments où tu as une... Comment dire ? C'est magique. Vous voyez cette image, le même, les trois cerveaux genre, qui sont de plus en plus illuminés, genre IQ machin, IQ 2000, IQ je sais pas quoi. Et il y a tellement de moments dans ce jeu où tu dis « Oh putain, ok !» Et c'est des trucs qui étaient devant toi tout le long et... Enfin bon, c'est bon. On en parlera tout à l'heure, Benoît.
Moi, ce que j'avais dit, j'avais fait un test à la sortie sur ma chaîne YouTube et j'avais dit aux gens au bout de 2 ou 3 minutes, voilà, si vous me faites confiance, vu que je suis un influenceur, vous arrêtez la vidéo, vous allez l'acheter. Et pas mal de gens l'ont fait et ils m'ont remercié depuis. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'en parler sans forcément rentrer dans les détails, en fait, quoi.
Ouais.
Il est toujours en exclusivité sur l'Epic Game Store, c'est ça ?
Ouais. Vu que t'as le Xbox Game Pass, il est dispo dedans. Hein.
Oui.
Ah oui, parce que justement, je l'avais recherché et je le trouve.
Il me semble
pas.
Qu'il y est. Hein.
Alors, le Xbox Game Pass, mais sur console uniquement, si je ne m'abuse.
Ah, c'est peut-être que sur console.
C'est peut-être ça.
C'est
ça.
Ouais, okay. Ouais.
Et je crois qu'il est disponible sur PS4 depuis très peu de temps.
Il vient de sortir sur Play 4, ouais.
Ouais.
Ah, donc, c'est intéressant.
Vous n'avez aucune excuse
sinon,
pour ne pas y aller.
Que sur PC, enfin, je veux dire, Epic, Steam, même combat. Hein.
Ouais. Donc,
des gens pas sympas aux commandes, hein, dans les deux cas. Hein, donc,
dans le cas de Epic et Steam. Ouais. Donc voilà pour le jeu auquel je joue. Oh, j'ai très très hâte d'en parler un petit peu plus avec toi. J'espère qu'on aura le temps, Benoît, parce que là j'ai promis.
Ah
du
bah,
coup,
je suis. J'ai okay. mangé avant exprès. Je t'ai libéré. Super. Une partie de ma journée. Hein.
Très bien. Il y a des choses auxquelles vous avez joué là ces quelques semaines dont vous voulez parler rapidement.
De mon côté, Pokémon. Pokémon.
Ah ah, d'accord.
Ça me dit un truc, ça. Hein.
C'est un petit jeu indé.
Ouais ouais.
Et depuis que je l'ai reçu, là, j'essaye de faire que ça pour le terminer rapidement et pouvoir retourner sur tous les jeux auxquels j'aimerais jouer, dont Outer Wilds. Sympathique petit jeu rafraîchissant. Moi, je suis toujours contente de jouer à un Pokémon. C'est une parenthèse dans ma vie une parenthèse de douceur dans ma vie de gameuse. J'aime beaucoup le nouveau bestiaire. Je le trouve très chouette. Je suis pas une fan acharnée au point de critiquer tout ce qui a pu être critiqué sur le jeu. Moi, je m'amuse. C'est mignon. C'est pas très compliqué comme d'habitude. C'est pas prise de tête. Les nouveautés sont pas folichonnes, mais je passe un bon moment et c'est ce que j'attends de ce type de jeu. Donc j'avoue que je suis pas très exigeante sur ces jeux-là. Je les achète systématiquement, je m'amuse et ça me va très bien.
Ouais, c'est le jeu pantoufle, quoi. C'est le truc.
C'est exactement
tu...
ça.
Ouais. D'accord. Pokémon, très bien. Benoît, toi, t'as un truc auquel t'as joué ?
Je joue à pas mal de choses. J'ai joué un peu à Pokémon et effectivement, moi, j'ai trouvé ça très bien. C'était la première fois que je jouais à Pokémon de ma vie et du coup, je trouvais ça. Voilà. C'est ça que normalement, c'est ce que doit faire Patrick. Pourquoi t'as pas joué à Pokémon ?
Ah non, mais tu rigoles, moi, Pokémon, j'ai jamais joué. Hein.
J'ai joué à Half-Life, justement. Tu vois, vu que c'est à la même époque que c'est sorti, j'étais déjà trop grand. Si tu veux, moi, j'avais Half-Life d'un côté et je voyais des gens plus jeunes que moi jouer à la Game Boy. J'étais là, genre. J'étais un adolescent comme tous les adolescents.
Non, mais c'est exactement mon parcours aussi. Moi, j'ai jamais joué à Pokémon. Hein. Exactement
ouais,
pour les mêmes raisons.
Légèrement trop tôt, tu vois.
C'est ça.
Légèrement trop tôt. Pour...
Ouais, exactement. C'était un petit peu genre le vieux con qui avait, je sais pas, 19, 20 ans. Et je me disais, mais pff, ce truc pour les enfants. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Je joue à Tekken, monsieur. Je tape des gens sur la tête.
Je résous le Pokémon. Mystère de la
c'est
famille Kazama.
C'est ça, exactement.
plutôt. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps ? C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, j'ai joué à. J'ai enfin terminé Control il y a pas longtemps et c'est aussi très haut dans mon classement des jeux de l'année. Mmh. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Tu vois, moi, j'étais un peu nostalgique de l'époque Max Payne et là, Remedy, ils sont revenus vraiment, vraiment à fond. Et sinon, tu sais, mes fils rouges, hein, il y a en fait là. D'ici une ou deux semaines, il va y avoir deux énormes mises à jour de Path of Exile et Warframe. J'attends l'une comme l'autre, les deux. Enfin, Warframe surtout, ça va encore une fois transformer le jeu entièrement. Puisqu'ils vont rajouter, juste pour expliquer, Warframe, c'est Destiny sous amphétamine. Hein, donc c'est toujours le même système de mission à jusqu'à 4 joueurs, on va tuer des trucs en coop. La différence, là, c'est qu'en plus de ça, maintenant, ils vont en rajouter tout un système de combat en vaisseaux spatiaux. On va pouvoir se créer nos propres vaisseaux spatiaux et inviter nos amis à l'intérieur et faire des missions dans l'espace, puis sortir du vaisseau, aller dans un vaisseau ennemi. Enfin, ça va être complètement fifou.
Et
ça
c'est la fameuse mise à jour qu'ils avaient annoncée à la... Je sais plus comment elle s'appelle.
À la TennoCon, cet été, ouais. Ils avaient déjà présenté l'année dernière, ils l'ont remontré cette année, et c'est censé arriver avant la fin 2019, donc il leur reste peu de temps. Voilà, pour les gens qui nous écoutent, vendredi soir à 20h, il y aura le...
On entend beaucoup ta souris toujours, Benoît.
Bah, je ne sais pas si c'est la souris que vous entendez ou autre chose, je ne sais pas, il y a aussi des travaux. Enfin, désolé, parce que je n'étais pas en train de cliquer.
Ah, d'accord.
Mais, bref, voilà, il y a une grosse mise à jour de Warframe qui arrive, et du coup, c'est ce que j'attends, et je n'ai pas forcément joué à grand-chose d'autre en ce moment, parce que du coup, j'avais des jeux à faire pour le mien de podcast. Donc voilà.
Et Pass of Exile, il y a eu beaucoup de grosses annonces, là, dernièrement.
Ouais, bah, il y a eu l'ExileCon. Ouais, tout à fait. Ils ont annoncé un nouveau jeu. C'est un peu à la Overwatch 2. Hein. C'est un peu bizarre la différence entre le 1 et le 2. Ça va être en fait une nouvelle campagne. Ils vont changer le moteur graphique. Ils vont surtout revoir un peu fondamentalement comment le jeu il fonctionne. C'est pas mal de changements très intéressants. Et c'est une bonne réponse à Diablo 4. Donc je suis content parce que c'est un genre de jeu qui était un peu laissé de côté ces dernières années, là, l'action RPG à la Diablo. Et là, ça va revenir a priori très très fort dans les années qui viennent.
Ok, des choses qu'on attend, mais en l'occurrence, celui dans l'immédiat, c'est plutôt Warframe, dont la mise à jour arrive tout de suite. Là.
Bientôt.
Super. Les Game Awards ont annoncé leurs nominés. Alors, les Game Awards, vous le savez, c'est la plus grosse cérémonie de remise de prix de jeux vidéo qui a la valeur qu'elle a. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un petit peu artificiel. Personnellement, moi, je trouve toujours ça sympathique d'avoir une occasion de se réunir et de célébrer l'année de jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de ces tops de l'année. Enfin, c'est un truc qui est universel. Mais là où c'est intéressant cette année, c'est que la relation très proche entre Kojima et Jeff Keighley, l'organisateur, le producteur de cet événement, de cette cérémonie, nous fait nous poser des questions sur l'interaction avec les jeux nominés, parce qu'en l'occurrence, pour le jeu de l'année, il y a Control, Death Stranding, Resident Evil 2, le remake, Sekiro, Smash Bros. Et The Outer Worlds. Le truc, c'est que Death Stranding, je pense, aurait pu y figurer, même si on n'avait pas cette interrogation. Mais le fait qu'il soit tellement pote, il y est depuis des années. Il y a même Jeff Keighley dans le jeu. Alors, Keighley en a parlé. Il a dit, de toute façon, je ne participe pas ni à la sélection, ni au vote. Donc, moi, je suis à peu près satisfait de la chose. Parce que je me dis, si effectivement, il n'y participe pas... Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'influence qu'il n'y en aurait de toute façon sur tous les jeux. Ce qui, par exemple, le fait que... Je ne sais pas si c'est moi qui suis biaisé, mais Smash Bros. Dans les jeux de l'année, je trouve ça un petit... Pas usurpé, mais... Mais je ne suis pas un joueur de Smash en même temps. Ça se trouve, tous les joueurs de Smash me regardent, enfin maintenant, dans ce moment, et me lèvent le poing au visage en me disant « Smash, c'est génial, peut-être. » Mais bref, la question pour moi se pose quand même un petit peu, mais pas plus que d'habitude. Ça ne me gêne pas plus que ça, mais c'est marrant de voir à quel point la relation entre les bros Kojima et Keighley, le fait que Death Stranding soit présent là... Bon,
à d'aussi nombreuses reprises, c'est vrai qu'il est.
Il est sur jeu de l'année, jeu d'action aventure. Mais en même temps, tu vois, direction artistique, oui, Death Stranding, c'est difficile de pas le voir comme l'un des jeux dont la direction artistique est intéressante. Il est dans l'audio design, il est dans
Il est dans 6 ou 7 catégories, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est quand même un gros jeu qui a fait parler de lui. Je sais pas. Il est aussi dans...
Tu parlais tout à l'heure du plus grand journaliste. Enfin, tu vois, si Jason Schreier, c'est notre plus grand journaliste, c'est aussi parce qu'on a des gens absolument ridicules comme Geoff Keighley qui se prétendent être journaliste également. Parce qu'à un moment donné,
est-ce qu'il est journaliste, faut... lui il est quand même producteur, il est plus animateur, je dirais. Je sais pas,
c'est juste que dans la tête des gens, c'est un peu ça l'image, tu vois, des gros journalistes. Enfin, je veux dire, on se souvient très bien que le Doritos Gate était venu de cette fameuse photo de Geoff Keighley entouré de Mountain Dew et de paquets de chips pour une présentation de Halo. C'était absolument ridicule. C'était probablement un des pires moments du jeu vidéo moderne. Et si les Video Games Awards, ça passe comme étant encore une fois une grosse cérémonie, bah, c'est quand même vachement dommage. Parce qu'à côté de ça, on a plutôt les prix qui sont donnés par l'IGF, l'Indie Game Festival, qui sont pour le coup un peu plus intéressants. Il y a les BAFTA. Il commence à y avoir des vrais prix sérieux donnés par des gens sérieux qui parlent avec du jeu vidéo. Les Video Games Awards, tels que je les vois moi, c'est simplement que c'est l'occasion de faire de la com facile pour les constructeurs en fin d'année, parce qu'il n'y a plus de salon en décembre, et c'est l'occasion du coup de profiter d'un petit moment de spotlight en dehors de la Gamescom, de l'E3 et du Tokyo Game Show. Et du coup, ça tombe très bien qu'ils aient décidé de faire ça en fin d'année, mais bon, après, c'est juste une vaste blague, hein. Que ça soit la sélection des jeux ou quoi que ce soit, ça n'a aucune valeur.
C'est hyper consensuel, c'est vraiment très consensuel.
Ben, moi, c'est vraiment ce milieu du jeu vidéo
qui s'autocongratule.
Et oui, Geoff Keighley qui dit moi je ne participe pas aux sélections. C'est bon, Facebook a dit qu'ils étaient désolés, ils vont arrêter de le faire.
Il y a un peu de ça, mais moi je suis. Il faut quand même qu'on soit pas d'accord une fois dans l'épisode au moins. Disons que idéalement, il faudrait une cérémonie de l'Académie, c'est-à-dire quand on dit l'Académie du jeu vidéo, c'est comme l'Académie du cinéma, c'est-à-dire tous les membres. Officiel de cette académie, et dans le cinéma il y en a des dizaines de milliers, c'est tous les acteurs, réalisateurs, membres des équipes techniques, etc., qui votent. Et oui, ça peut être consensuel, ça peut être machin, mais c'est l'une des cérémonies, et c'est la cérémonie de l'industrie qui, comme dans toutes ces cérémonies, se regarde un petit peu le nombril. Mais moi, j'aime bien aussi, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait l'occasion de célébrer tout ça, et tu vois, un moment pour tout le monde de se retrouver et de dire « Ah ben, tel jeu, on l'a aimé, tel jeu, on l'a pas aimé. » Alors effectivement, c'est les usual suspects pour tous ces jeux, souvent. Encore qu'il y a des petits trucs peut-être un tout petit peu inattendus. Il y a Gris, par exemple, qui est sélectionné pour la direction artistique, il y a Sayonara Wild Hearts, enfin, il y a quelques petits trucs qui ressortent du lot aussi, il y a justement Outer Wilds qui est, je ne sais plus dans quelle catégorie. Mais bon, c'est l'une de ces cérémonies, ça ne veut pas dire que c'est la seule, ce n'est pas la seule qu'il faut regarder et à laquelle il faut prêter attention, mais pour moi, il y a quand même une valeur à ce genre de fête, de célébration, même quand c'est consensuel. Et je ne dis pas du tout le fait que ça soit consensuel. Mais bon, je comprends bien que c'est pas ta cam, Benoît, clairement.
Ben non, c'est pas ma cam, parce que je vais la regarder, il va y avoir un trailer d'Elden Ring, donc il faut bien que je le regarde. mais parce que justement, si tu veux, c'est simplement un rendez-vous de communication, ce n'est pas...
Non mais ça, c'est indéniable, il y a un aspect...
Donc il faut juste être conscient de ce qu'on regarde, en fait. Et ça, le problème, en fait, c'est que les journalistes dont c'est censé être le métier ne nous le font pas savoir parce que justement ils remettent pas ça en question. Parce que
la mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens
aussi qui des problèmes aussi proches parce que tu peux pas en fait à un moment donné te prétendre journaliste ou te prétendre un petit peu détaché de tout ça quand tu apparais dans un jeu, quand tu es pote avec les gens, enfin tu vois, à un moment donné il faut juste arrêter de se foutre de la gueule du monde, il faut...
Mais tu penses vraiment que les gens sont pas au courant que... Enfin, c'est quand même, il y a des pubs...
C'est ce que tu as dit. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, c'est quoi le bon jeu, et qu'après, on puisse aller s'arracher les cheveux sur Twitter et Reddit.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas dit ce qui est intéressant, c'est quel est le bon ou quel est le mauvais jeu. Ça, je crois que c'était l'impression qu'on avait peut-être il y a quelques années encore. J'ai l'impression qu'on a quand même grandi, et je crois pas que... même les spectateurs aujourd'hui, bon, à part si tu vas sur le très grand public peut-être, mais les joueurs avertis, tu vois, ils prennent ça comme un signal du jeu que les gens ont aimé, et puis ensuite ils en discutent. C'est pas genre ah mais non, tel jeu est mieux que mon jeu est mieux que ton jeu, donc on va s'engueuler, tu vois. Je crois pas qu'on soit vraiment dans cet esprit, mais peut-être que je me trompe.
Est-ce que t'es déjà allé sur cet endroit qu'on appelle internet ces dernières années
Bon, Esca, toi t'en penses quoi de la cérémonie du coup?
Bon, elle a au moins l'avantage de nous faire parler. Après, je pense qu'effectivement, c'est plus une célébration bon enfant. J'attends pas ce genre de cérémonie pour savoir à quoi j'ai vraiment envie de jouer. Je préfère écouter les gens que je suis
sur leur
conseil. Oui, voilà, par exemple, le rendez-vous jeu. Mais disons que je suis toujours partagée. Moi, je trouve ça quand même, comme je disais tout à l'heure, très consensuel. Donc, Il n'y a pas vraiment de surprise sur les sélections de jeux, ni en général sur les grands gagnants. Donc voilà, bon, ça donne toujours matière à discussion. Donc rien que pour ça, ça fait toujours plaisir de pouvoir en parler. Mais je me sens assez loin de tout ça. C'est vraiment du marketing, de la communication. Au final, ceux à qui ça rend service, c'est les gens qui sont derrière et ce n'est pas nous. Donc voilà.
Voilà. Vous savez quoi, j'entends ce que vous dites, mais je me demande vraiment. On fait tous les ans un. Non, pas du tout, au contraire. Je vais faire comme Facebook. Votre opinion est importante pour nous. Non, mais tu sais, je fais tous les ans, enfin, comme tout le monde, on fait un vote pour les jeux que les auditeurs ont préférés. Je le ferai bientôt, là, je le lancerai bientôt. Et je serais curieux de voir si les jeux préférés des auditeurs seront si différents des jeux qui vont être célébrés et primés au Game Awards, tu vois. Et
je suis alors désolé, après... mais c'est un terrain glissant, Patrick, parce qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est pas qu'à la fin, le résultat il soit le même, c'est comment tu arrives à ce résultat qui est problématique. C'est-à-dire que, oui, Geoff Keighley, peut-être qu'il aurait aimé Death Stranding, mais ce qui aurait été bien, c'est qu'il l'aime, pas parce qu'il a été payé, mais parce qu'il l'aimait pour de vrai. Et ça, en fait, comme aujourd'hui, on vit dans un monde où, effectivement, on va célébrer le rachat à plusieurs millions d'un streamer, personne va être choqué qu'une rédaction de jeux vidéo fasse payer la moitié de ses contenus par des marques, etc. Forcément, en fait, on ne fait plus la différence, mais à un moment donné, l'argent, ça corrompt les choses. Et le fait que les gens, au final, ce qu'on se pose pas comme question, c'est le fait que tes auditeurs, ils aiment les mêmes jeux que dans les Games Awards, c'est peut-être aussi parce que le marketing derrière, il avait bien fait son taf et qu'ils ont entendu parler de ces jeux-là, tu vois.
Ouais, je trouve que c'est un petit peu... je comprends le raisonnement, mais je ne suis pas convaincu qu'il s'applique aujourd'hui parce qu'il y a plein de jeux moins marketingisés qui ressortent vachement. La réalité, à mon avis, est plus proche du fait que les jeux qui ressortent, c'est parce qu'ils ratissent très large et c'est les, entre guillemets, plus petits dénominateurs communs parce qu'ils plaisent à tout le monde. Donc oui, effectivement, ce n'est pas des jeux exceptionnels, mais c'est des jeux faciles, entre guillemets.
Non, mais...
Tu vois ce que je veux dire ?
C'est une question d'éthique, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de blé, ça ne gêne plus, ça ne gêne pas grand monde. Le fait qu'il y ait autant de blé qui soit brassé dans ce genre d'événement, moi, ça me pose un problème fondamental. Mais je le vois, et en même temps, je vais la regarder la cérémonie, puisque c'est une cérémonie d'annonce. Ils vont annoncer des jeux comme tous les ans depuis quelques années. Donc, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Mais la partie célébration, etc., bah, non, c'est corrompu, point.
Il suffit de voir qui est derrière la célébration, derrière l'event, pour comprendre qu'effectivement, de base, c'est biaisé. Quand tu vois que tu as des gens de chez Microsoft, de chez Activision, que tu as Hideo Kojima lui-même qui est derrière le truc,
Non, ça, je suis complètement d'accord. Mais ce que j'ajouterais, puis on va quand même conclure, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais ma vision n'est pas aussi sombre, je dirais, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de savoir. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, le public est informé, le public sait. Et donc, on le prend comme... Benoît, toi, tu penses que ce n'est pas le cas, peut-être ? Et peut-être qu'effectivement, moi, à la limite, ce qui m'importe, c'est mon public à moi, les auditeurs de cette émission, qui, eux, ont...
Mais je souffle parce que c'est... L'idée de se dire, peut-être que le public il connaît, oui, certes, mais de toute façon, on n'a pas de moyen de lutter contre ça. Donc, qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait une belle jambe de savoir que c'est vrai ou pas vrai. Enfin, tu vois, c'est...
Non, ça veut dire que tu peux prendre l'info pour ce qu'elle est. Et le fait... disons que, pour moi, j'ai moins de problèmes avec l'industrie d'une manière générale. C'est vrai que tous ces énormes jeux, ces AAA, c'est des trucs qui me plaisent aussi parce qu'il y a... et c'est des choses... Le plus important, c'est que ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas autant d'argent dans cette industrie. Et avec tout cet argent viennent tout un tas de caractéristiques. Tu vois, c'est autant j'adore des jeux comme Outer Wilds ou comme, je sais pas, Celeste ou ce genre de trucs, autant je voudrais pas que l'univers du jeu vidéo ne soit que des projets plus autonomes, plus indépendants et qu'il n'y ait pas, tu vois, s'il n'y avait pas l'argent...
Si on a nos AAA grâce à la corruption de la presse, eh ben, je me sens vachement mieux.
Ouais, mais c'est pas... Je suis pas d'accord sur ce point.
Je n'ai pas pris la tête comme ça, mais là...
Ouais, je crois qu'on va pas tomber d'accord, mais tu vois, je trouve que ton comment dire, ton hypothèse, je pense à hypothèse parce que Outer Wilds, mais ton hypothèse, tu la transformes en conclusion, en certitude, de manière un petit peu trop facile, je trouve. Je ne suis pas convaincu que ça
soit... Tu n'es pas convaincu qu'il y a de la corruption, enfin,
Non, si, bien sûr.
Pas
non,
une
mais...
hypothèse, c'est
non,
simplement
c'est parce que... Attends, Benoît, c'est... ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas convaincu que les AAA n'existent que grâce à cette relation.
Mais non, mais je sais bien. Mais c'est juste que c'était ce que tu étais en train d'essayer de dire. C'est qu'en gros, bon, bah, comme il y a beaucoup d'argent, forcément, on est obligé, tu vois, on est obligé d'accepter le moindre mal.
Ah oui, tu veux dire qu'on pourrait avoir tout ça sans la...
On pourrait avoir du blé à foison dans des jeux vidéo sans avoir ce genre de truc-là. Les Games Awards, je préférais que ça soit présenté comme une espèce de super présentation, cérémonie, ce que tu veux, mais dire que derrière, il y a des prix et ces prix vont influencer les ventes en magasin, moi, ça me fait mal au cœur. Maintenant, c'est ma vision des choses. Je sais qu'on ne se rendra pas là-dessus.
Est-ce que c'est vraiment vrai ? Je ne suis même pas sûr.
Ah, si, demande,
c'est un exercice marketing.
Demande à Motion Twin pourquoi ils ont été obligés de créer une deuxième entreprise parce que le jeu se vend tellement bien depuis qu'ils ont eu le prix l'année dernière. Il se vend presque plus depuis qu'ils ont eu ce prix-là, en fait. Parce que justement, il y a un côté médiatique derrière. Et ils se sont retrouvés à justement avoir envie de continuer à développer le jeu parce que du jour où ils ont eu le prix du jeu indépendant, le jeu, il a complètement explosé par rapport à avant, qui était déjà formidable.
C'est marrant. Pas que ça avait une telle influence.
C'est marrant que l'exemple que tu prends, c'est un petit jeu indé qui a justement été mis en lumière par la cérémonie corrompue. Donc,
mais c'est ça le problème en fait. C'est que justement, en fait, on se retrouve à avoir des bonnes choses qui viennent, qui sont le résultat de mauvaises choses au départ. Et du coup, ça floute
donc
en fait
la ligne,
la morale, l'éthique, etc. Tu vois.
C'est un peu l'équivalent du Energy Music Awards, mais pour le jeu vidéo, je pense que...
Ah, mais là, c'est marrant année, comme... c'est bon, c'est Subway qui va sponsoriser le prix du jeu indépendant du Game Award. Donc, je pense que là, on peut me dire tout ce que vous voulez, mais le niveau de cynisme et d'ironie du monde dans lequel on vit est atteint à ce moment-là, quoi. Quand c'est des gens indés et que des gens qui crèvent la faim la plupart de l'année et des milliers de développeurs qui ont à peine de quoi vivre, et là, c'est finalement Subway qui va décerner leur prix. Mais là, mon bullshitomètre, il a explosé. Hein, en plus,
hein. Bon, je te laisse le dernier mot sur ce sujet. On a bien compris que moi, je ne suis pas tout à fait sur cette ligne. Quelques news avant de refermer la porte de cette émission. Resident Evil 3 Remake apparaît sur le PlayStation Store et Vanquish Remake apparaît ou Remaster apparaît sur le Microsoft Store. Vanquish était déjà sur PC, il est sorti il y a un ou deux ans, je crois, en version 4K, Remake, machin. C'est un jeu qui est un jeu Platinum qui a été l'un des premiers qui a marqué l'histoire de cette société bien connue aujourd'hui, donc à suivre peut-être. Il y a quelques autres trucs dont je voulais parler. Star Citizen a plus de 250 millions de dollars levés par le crowdfunding. Ouais. Mais sur ce truc, moi, je suis toujours sur la même ligne. C'est complètement fou, mais si les gens ça leur fait plaisir de s'acheter des vaisseaux en plus dans le jeu qui n'est pas fini, pourquoi pas, hein.
Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Pour le coup, je veux dire, ils mentent pas, quoi. Ils font leur jeu, on sait qu'il sort pas, il sortira pas, et les gens y continuent. Donc, tant mieux.
Squadron 42 est promis pour deuxième semestre 2020, c'est la campagne solo, donc il devrait peut-être arriver, on verra. Riot a trouvé un accord avec les femmes qui leur avaient fait un procès, ils vont distribuer 10 millions de dollars aux différentes employées en fonction de leur ancienneté, leur poste, etc., pour différence, en fait pour... la question du sexisme dans leur société, les différences de salaire, etc. Donc, on espère qu'ils pourront repartir du bon pied après ça. Je sais qu'ils ont fait... il semblerait qu'ils soient en train de faire beaucoup d'efforts à ce niveau. Il faudra évidemment rester vigilant sur comment ça se passera. Je vais vous donner la parole dans un instant. Vous pourrez dire sur... Oui, vas-y.
C'est bien de dire qu'ils vont distribuer 10 millions de dollars, mais c'est quoi les actions concrètes derrière pour changer les choses, tu vois, faire évoluer les membres.
Ah, ils ont dit qu'ils étaient désolés qu'ils le feraient plus. Hein.
c'est bien.
Qu'est-ce que tu veux de plus, franchement? Est-ce que tu exagères pas un peu?
Arrête
ou je te poursuis en justice et tu devras me verser 10 millions.
Ça, si je pouvais te les donner, mais je te les donnerais avec tellement de plaisir.
Effectivement, dans ce genre de situation, c'est un truc qu'on ne peut juger que par les actions. Je sais qu'ils font des choses, mais bon, il faudra juger sur le concret. Mais ils sont pas, je vous rassure, ils sont... En tout cas, dans les mots, ils ne sont pas arrêtés à cette question de 10 millions de dollars. Ils font visiblement des efforts dans leur boîte. On verra dans quelques années s'ils portent leurs fruits. Et YouTube est en train de changer la manière dont ils monétisent les jeux vidéo. Ils avaient mis une sorte de chape de plomb sur le jeu vidéo en général et en particulier sur le contenu entre guillemets violent dans les jeux vidéo parce que c'était des scènes de guerre, des scènes de combat, ce genre de choses. Et quand ils ont modifié leurs règles pour contenter les annonceurs, eh ben ils avaient classifié tous ces contenus dans des contenus un petit peu problématiques que les annonceurs pouvaient ne pas, en fait, dans lesquels les annonceurs n'étaient pas inclus par défaut. Et là, ils vont créer en fait une autre catégorie où, bah, simplement, quand c'est du jeu vidéo, même s'il y a du contenu un peu violent, quand c'est pas le focus du jeu, et bah, il sera quand même dans une catégorie acceptable, ce qui devrait aider de nombreux YouTubers qui couvrent les jeux vidéo à gagner un petit peu d'argent avec la publicité notamment. Voilà pour tout ça. Je ne sais pas si vous avez une chose à ajouter, soit sur YouTube, Resident Evil, Vanquish, si vous avez acheté plein de jeux pendant les soldes. Moi, personnellement, j'ai rien acheté parce que je me disais j'ai déjà trop de choses à faire. Mais...
Non, ouais, ça fait longtemps. Moi, après, je suis privilégié. Hein. J'achète plus mes jeux vidéo depuis pas mal d'années, donc je ferme ma gueule en général dans ces périodes-là.
Ouais. Non, moi, ah, mais tu vois, t'es corrompu. Tu reçois les jeux des éditeurs. Moi, Benoît, je ne reçois aucun jeu ni aucun matériel d'aucun éditeur. Je suis totalement indépendant.
C'est tellement ridicule cette hypocrisie que ça, je l'ai même pas relevé. Ça me fait mal au cœur.
Mais oui, donc t'as acheté aucun jeu.
Non, mais de toute façon, là, en ce moment...
T'attends Vanquish, peut-être ? Ah non, mais toi, t'es sur PC, il est déjà dispo.
Je l'ai déjà, ouais, je l'avais racheté, pour le coup, quand il était sorti sur Steam. Sachant que, d'ailleurs, ils ont annoncé, parce que t'as pris la news au vol, comme moi, et ils ont annoncé aussi Bayonetta, a priori, ils vont faire une espèce de collection pour les 10 ans, Bayonetta et Vanquish, ressortis sur Xbox One en version 4K, machin.
Ah, pas mal, effectivement.
Ouais, c'est ce que j'ai lu, là, pendant qu'on était en train d'en reparler, sur ton Slack, hein, donc super. Merci les gens du Slack.
Oui, j'ai vu que tu étais sur le Slack pendant qu'on faisait l'émission. Je ne sais pas ce que j'en pense de tout ça. Je suis conflictualisé.
Mais non.
Est-ce qu'il y a une autre chose à ajouter avant qu'on se quitte ?
Non, là, parmi les news que tu avais notées, c'était surtout cette histoire de Riot Games. Et puis, tu avais noté, on en a parlé tout à l'heure, là, du Steam Controller à 5$. Il liquide les stocks. Bah, je l'ai à la maison. Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Je me dédouane complètement de cet achat. Je le trouve affreux à tenir en main, j'aime pas du tout. Donc c'est monsieur me dit que lui, il le trouve très bien, mais je pense qu'il essaie toujours de se persuader qu'il a pas acheté de l'argent par les fenêtres. Donc, je pense que son avis est corrompu. Donc voilà. C'est mieux oui, que de les mettre à la poubelle.
Ils abandonnent effectivement le Steam Controller. Ils l'ont vendu à 5$ pendant les soldes, bon, c'est pas...
Quel gâchis, quand même. Entre le Steam Controller et les Steam Machines, ils ont pas fait que des bonnes choses ces dernières années. Hein.
C'est sûr.
Lui,
il avait une Steam Machine aussi.
Il avait acheté les deux, ouais. Oui, le Steam Link et le contrôleur. Et il m'avait dit, ah, tu te rends compte, j'ai fait une affaire, ça coûtait à peine $30. Je lui dis, eh ben écoute, on en reparle dans 6 mois quand ça sera dans un tiroir et que ça ne servira plus. Et voilà, bah, j'avais raison comme toujours. Hein.
Le truc, c'est qu'effectivement, à l'époque, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, en fait. C'était une idée intéressante, mais qui ne s'est pas concrétisée. Mais je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça.
Ah oui, bien sûr. Non,
mais bon, clairement, ça, c'est
l'histoire.
Bon.
Ils avaient raison.
Pour le coup, ça fonctionne. Le Steam Link en lui-même, il fonctionne plutôt très bien. Le fait de pouvoir après streamer sur n'importe quel type de plateforme mobile ou quoi, on l'a encore essayé. Ça fonctionne bien, mais c'est pas pour autant qu'on s'en sert, quoi.
Ouais. Bon, eh ben écoutez, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir animé les choses avec moi. Donc Benoît, on se donne un petit 20 minutes, une demi-heure pour parler de Outer Wilds juste après ça pour les Patriotes et pour tout le monde. Donc à la période des fêtes, on mettra un épisode spécial. Avant de se quitter, donc, est-ce que vous pouvez me dire où on peut se retrouver, où on peut vous retrouver, Escarina, sur Internet ?
Oui, alors on peut me retrouver sur Twitter, escarina_, sinon sur KissMyGeek ou le podcast jeux vidéo, pas pour les gaming de grands, qui s'appelle Super Gamer.
Super. Benoît.
Et du coup, moi, c'est XR85 sur Twitter et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Fin du Game, où on parlera notamment d'Outer Wilds un jour ou l'autre.
Ah, j'ai très très hâte de vous entendre, oui.
Les échanges sont passionnants, j'ai... J'aime beaucoup votre émission. J'aime
tout à fait.
Beaucoup ce que vous faites.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Merci. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites et je le soutiens effectivement sur Patreon. C'est une excellente émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Les comptes Twitter de nos deux co-animateurs seront dans les notes de l'émission également. Vous pouvez retrouver et commenter cette émission sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit pendant l'épisode. Et si vous voulez soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreon.com/rdvjeux. Vous aurez non seulement accès à toute l'émission et des contenus bonus, et les gens qui écoutent sur le flux privé des Patriotes, et on aura donc la partie Outer Wilds juste après ça, en avance exclusive. Avance exclusive, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, ça sera là pour ceux qui le veulent. Et on vous fait de très gros bisous. Le prochain épisode, normalement, sera un épisode, je crois que ça sera l'épisode GOTY. La grande célébration, la joie du jeu vidéo sera dans vos oreilles.
Sponsorisé par tes auditeurs, pas par Sony ou Samsung ou que sais-je. Donc bravo. Bravo,
Patrick. Et encore qu'il risque d'y avoir une petite campagne de pub qui arrive peut-être.
Oh là là.
Oula. Mais vous verrez de quoi il s'agit. Vous verrez de quoi il s'agit. Mais pas pour ceux qui sont abonnés au Patreon, évidemment. Ah, que de mystère. On verra ce que ça donne. Mais on m'a parlé d'un truc qui pourrait être intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout. Ça sera les jeux de l'année, le prochain épisode, si tout va bien, dans 2 semaines. Et je vous fais de grosses, grosses bises. Et on se retrouve à ce moment-là. Allez, à bientôt. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.